Je vais vous demander de prendre place. Je vous invite d'abord à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. C'est toujours Astrid Tussaud à ma connaissance. Je vous propose donc de la désigner comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. J'ai reçu quelques pouvoirs. Abida Sharif sera représentée par Jacques Fromm. Hélène Devilliers sera représentée par Joachim Verdier. Et Candy Leroy arrivera en retard et jusqu'à son arrivée sera représentée par Annie Loyau. Alors, le premier rapport concerne la création d'un budget annexe cellule commerciale de Bernon. La gestion locative qui va résulter du projet de création de 3 cellules commerciales au rez-de-chaussée de l'extrémité du centre commercial de Bernon est imposable à la TVA. Cet assujettissement fiscal nécessite la création d'un budget annexe spécifique pour cette opération et c'est donc le sens de ce rapport. Y a-t-il des questions? Pas de questions particulières? Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons ensuite au vote du budget. Chers collègues, lors du débat d'orientation budgétaire en décembre dernier, j'avais insisté sur les lourdes contraintes qui pèsent cette année sur les collectivités de notre pays. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ces éléments d'information qui ont été déjà abondamment commentés. Je rappellerai simplement quelques éléments qui résument assez bien le contexte dans lequel nous avons bâti ce budget. S'agissant d'abord du désengagement de l'État, il se poursuit et s'amplifie. La réduction des dotations de l'État atteint cette année un niveau particulièrement critique. Et plus grave, ce désengagement est appelé à se poursuivre en 2016 et en 2017. L'an dernier, la ville avait perdu 507 000 euros. En 2015, l'État va encore diminuer ses dotations à notre collectivité de 1 200 000 euros, soit une baisse de 10,7% après une baisse de 4,5% en 2014. Ainsi, depuis 2008, la contraction des dotations représente une perte sèche de recettes de 3 100 000 euros pour la ville d'Épernay. Et dans le même temps, l'État nous oblige à effectuer de nouvelles dépenses. Elles sont liées cette année à l'augmentation du fonds de péréquation pour un montant de 234 000 euros et à de nouvelles charges relatives au personnel, globalement 401 500 euros, comprenant notamment l'aménagement des rythmes scolaires. Si on ajoute la perte de dotation de l'État à ces charges nouvelles qui nous imposent, c'est une somme de 1 830 000 euros, soit l'équivalent de 9,6 points de fiscalité dont l'État nous prive en 2015 par rapport à 2014. Face à cette situation, nous avons choisi de ne pas utiliser le levier fiscal. Les taux de fiscalité seront donc stables en 2015 pour la 10e année consécutive, avec même 2 baisses sur cette période en 2007 et en 2008. Je rappelle que dans le même temps, les prélèvements obligatoires ont augmenté de 40% en France. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas choisi d'augmenter les impôts, parce que imposer aux contribuables locaux une augmentation des impôts supplémentaires à celles qu'ils ont déjà subies du côté de l'État serait manifestement le trop-plein. Ayant écarté une hausse de la fiscalité locale, nous avons fait le choix de baisser nos dépenses de fonctionnement. Et cette diminution est notable puisqu'avec un volume qui s'établit à 43,7 millions d'euros, ces dépenses de fonctionnement baissent de 3% par rapport au budget primitif de l'année dernière. Et c'est une première depuis 1982, les années de décentralisation et probablement même avant, puisque jamais nous n'avions assisté à une telle baisse du budget de fonctionnement. Nous revenons donc à un niveau de dépenses qui était celui de 2010. Pour ce qui concerne le fonctionnement, le premier poste budgétaire est celui du personnel dans toutes les collectivités. À Épernay, sa progression demeure contenue à 1,56%, progression qui s'explique par des décisions échappant à la collectivité. Je pense notamment au reclassement des personnels de catégorie C qui a été décidé par l'État, à l'impact de la réforme des rythmes scolaires ou à la progression des charges patronales, autant de décisions dont nous ne sommes pas à l'origine et pour lesquelles nous enregistrons malheureusement des augmentations de charges. Sans ces augmentations subies et en intégrant le glissement vieillesse-technicité, les charges de personnel auraient diminué de 0,3% en 2011 pour 472 agents effectifs équivalents à celui de 2011. Par ailleurs, nos efforts en matière de désendettement entamés en 2002 et une gestion dynamique de notre encours continuent de porter leurs fruits puisque notre dette globale, c'est-à-dire la dette du budget ville et la dette des budgets annexes, a été encore réduite en 2014 et s'établit aujourd'hui à 34,4 millions d'euros. Depuis 2002, notre encours a ainsi diminué de 13 millions, ce qui représente une baisse de 27,5% sur la période. Pour 2015, nous conserverons ce montant de 34 400 000 euros, c'est-à-dire que nous stabilisons la dette. Une baisse supplémentaire aurait en effet entraîné une diminution de nos capacités d'investissement et une hausse se serait traduite évidemment par des charges supplémentaires sur le plan financier. Je rappelle par ailleurs que le travail mené par nos services financiers avec le cabinet Finance Active a permis de s'assurer du caractère sûr de notre dette. Elle est classée à 93% au classement 1A sur le classement Gisler et 1B pour les 7% restants. Cette gestion active de la dette a permis également de bénéficier au mieux des orientations des marchés pour réduire nos frais financiers. Des arbitrages ont ainsi été faits pour répartir nos emprunts entre taux variables et taux fixes. Et le résultat de ce travail de longue haleine nous permet d'afficher en 2015 un taux moyen de notre encours qui sera ramené de 2,72% à 2,32%. Ainsi, cette année, les frais financiers de notre collectivité diminueront encore de 19% pour atteindre le montant de 780 000 euros. Ils représentaient une dépense de 2 430 000 euros en 2002, ce qui signifie qu'ils ont baissé de 68% depuis 13 ans. C'est évidemment le résultat des choix que nous avons faits, mais c'est aussi le résultat, je tiens à le souligner, du travail tout à fait remarquable qu'ont fait nos services, en particulier le service des finances qui gère cette dette au plus près. Comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire en matière de fonctionnement, des réductions importantes ont été également décidées dans le domaine événementiel. Elles passeront par la suppression des nuits de la nuit de Champagne et des redimensionnements de certains événements culturels et sportifs. Au total, c'est une économie de 240 000 euros qui sera ainsi réalisée. L'enveloppe financière consacrée aux locations de motifs pour les illuminations hivernales sera également sensiblement réduite. Un travail de refonte du schéma de répartition des matériels d'illumination sera donc réalisé d'ici l'hiver prochain. Et l'action des services n'étant pas le seul facteur permettant de limiter les dépenses de fonctionnement de la collectivité, il a été décidé, comme de nombreuses communes l'ont fait, de faire également contribuer le secteur associatif à cet effort. Les structures mises récemment à la disposition, je pense la Maison des Arts et de la Vie Associative ainsi que l'Espace Paul Bert, vont évidemment vont participer efficacement au soutien apporté par la ville au tissu associatif. Seul le volume global de subventions diminuera légèrement. Ainsi, sur le budget ville, le montant des subventions sera ramené de 2,72 millions d'euros l'an dernier à 2,6 millions d'euros, soit une baisse de 120 000 euros en 2015. Au cours de ce conseil, une délibération spécifique, comme chaque année, nous permettra d'entrer dans le détail de ces évolutions qui ne concernent pas uniformément toutes les associations. Si on ajoute les subventions qui seront versées par l'intermédiaire du CCAS, le montant global des aides apportées aux associations par la collectivité atteindra la somme de 2 970 000 euros en 2015 pour 3 150 000 euros en 2014, ce qui représente une variation de moins 5,7%. Enfin, la baisse de nos recettes de fonctionnement entraîne également une diminution du virement de la section de fonctionnement pour financer nos investissements. Notre autofinancement baissera donc cette année à 4 430 000 euros contre 5 400 000 euros en 2014. Ce montant est similaire au niveau observé au début du précédent mandat. Il avait cru au cours du précédent mandat, il redescend au niveau du début du mandat précédent. Dans un contexte difficile pour les collectivités, nous réussirons malgré tout à maintenir un haut niveau de dépenses d'équipement. Le montant global sur le budget ville et les budgets annexes sera de 7 400 000 euros en investissement pour 8 100 000 en 2014, soit une baisse de 700 000 euros. Il faut souligner que cette somme est financée à hauteur de 39% par les ressources propres de la collectivité, c'est-à-dire sans recours à l'emprunt bancaire. Outre le fait qu'elles permettent de contribuer à l'amélioration de l'équipement de la commune, ces dépenses vont également participer au soutien apporté au secteur économique et, pour une part importante, à l'activité d'entreprises locales. Au total, depuis 2002, les investissements réalisés par la ville d'Épernay auront ainsi atteint le montant de plus de 121 millions d'euros et, dans le même temps, nous aurons réussi à baisser les taux d'imposition et à réduire l'encours de dette de 27,5%. Mais si l'État poursuit le désengagement drastique qui est le sien en faisant peser un poids disproportionné aux collectivités au regard de leur part limitée dans le déficit public, je crains qu'il conduise à une contraction massive de l'investissement public dans notre pays. On le voit cette année, nous baissons nos investissements d'environ 8 à 9%. Il faut rappeler que l'investissement public civil est traditionnellement l'un des moteurs de la croissance et qu'à 70%, il est porté par les collectivités territoriales, régions, départements, intercommunalités et communes. D'ailleurs, on observe déjà une baisse notable de l'investissement dans un grand nombre de collectivités, y compris de taille importante. Ainsi, par exemple, Metz réduit cette année ses investissements de 20%, Lyon de 25%, Bordeaux de 30%. Ce sont des chiffres que nous avons récupérés, évidemment, sur la presse, dans la presse ou sur Internet. De plus, sans correction rapide, la réduction des dotations de l'État jusqu'en 2017 risque, selon les projections, de conduire plus de la moitié des communes de 10 000 à 50 000 habitants à une situation d'insolvabilité d'ici 2017. Même si les efforts que nous avons réalisés depuis 2002 nous mettent à l'abri d'une telle extrémité, le maintien par le gouvernement de la diminution annoncée des dotations nous conduira à étaler nos réalisations dans le temps. Quelle que soit la réponse de l'État aux sollicitations des associations d'élus, je pense évidemment à la réunion qui doit prochainement avoir, à la table ronde qui doit avoir lieu entre l'AMF et le gouvernement, nous essaierons de créer de nouvelles marges de manœuvre en repensant notre organisation interne, en développant toutes les formes de mutualisation, en optimisant encore notre fonctionnement par des évolutions sur lesquelles j'ai demandé au service de mener un travail prospectif en lien avec l'équipe municipale. Nous le ferons tout au long de cette année, en préservant le cœur de notre métier, c'est-à-dire le service public. Même si, en cette période de crise économique, le bassin d'emploi résiste mieux que de nombreux territoires, les difficultés sociales n'épargnent pas pour autant certains Sparnassiens, et notre budget va contribuer, cette année encore, au renforcement de la cohésion sociale. Il est de la responsabilité de notre collectivité d'être aux côtés des personnes en difficulté pour faire face à ces situations délicates, mais notre action sociale continuera d'être menée avec la discrétion qui garantit le respect des personnes. Cette année, le CCAS disposera d'un budget global de 7 780 000 euros. La subvention de fonctionnement versée par la ville passera de 3 280 000 euros à 3 360 000 euros cette année. Les moyens ainsi mobilisés permettront tout d'abord de poursuivre les actions en faveur des plus démunis. Outre les secours d'urgence destinés aux personnes qui l'accompagnent directement, le CCAS continuera d'apporter son soutien aux associations locales, notamment dans le secteur de la solidarité, je pense au club de prévention, Croix-Rouge française, Accueil Saint-Vincent-de-Paul, Secours populaire, Secours catholique, etc. Mais s'agissant de l'accueil d'urgence, qui est une compétence de l'État, la subvention du CCAS diminuera de 52 000 euros, d'une part parce que l'État réduit ses aides à notre collectivité, et d'autre part parce que la gestion du dispositif n'est pas satisfaisante. Le nombre de places est aujourd'hui disproportionné à Épernay au regard des besoins du territoire, et pour autant, ces besoins ne sont pas satisfaits du fait de l'engorgement du dispositif par des personnes déboutées du droit d'asile. Et sur ce point, j'ai saisi récemment le préfet de cette question importante. En deux mots, nous avons traditionnellement des places d'hébergement d'urgence à Épernay en nombre relativement important. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces places sont occupées par des demandeurs d'asile refoulés des demandes d'habilitation au titre de l'asile politique. Et ces personnes ne repartant pas dans leur pays, elles viennent engorger le dispositif. Et aujourd'hui, on a des difficultés à loger les personnes qui sont en recherche d'hébergement d'urgence, qui sont issues de notre territoire, l'essentiel des places étant occupé, mais ça, ce qui vaut à Épernay vaut également dans les villes voisines et dans les régions voisines. Et ça, évidemment, nous refusons de subir cette situation. S'agissant de nos aînés, le CCAS poursuivra le développement de ses animations et son pôle senior assurera le suivi du Conseil des sages qui sera mis en place au premier trimestre. Par ailleurs, la résidence du CED continuera de bénéficier de la modernisation d'un certain nombre de ses appartements pour un montant de travaux de 100 000 euros cette année. La réflexion sur la création d'une résidence autonomie dans le secteur de la rue Galice sera également poursuivie puisque des financements existent en la matière et que nous souhaitons être éligibles dans le cadre de ce fonds de soutien aux résidences autonomie. Concernant la jeunesse, l'action de la collectivité continuera de s'appuyer sur la commission jeunes, récemment renouvelée. Celle-ci poursuivra son rôle d'animation avec toute une série de manifestations comme la Jeunesse se bouge ou la Spar Night, ainsi que de nouveaux rendez-vous autour de la musique hip-hop. Mais cette action se développera aussi Mais elle développera par contre la collectivité aussi des actions en lien avec nos villes jumelles, et je pense notamment à une action ô combien symbolique autour des témoignages d'Yvette Lundy qui se déroulera à la fois à Épernay le 8 mai et à Ettlingen le 15 mai et qui sera sans aucun doute un des temps forts de cette année. Pour ce qui est de l'aide apportée aux familles, en lien avec la Maison des parents et de l'enfant ainsi qu'avec les actions de prévention déjà menées, le Conseil des droits et devoirs des familles sera activé au cours de l'année. 2015 constituera également une étape importante pour la définition de nouveaux contrats de ville. Au regard des graves événements qu'a connus il y a peu notre pays, cette nouvelle génération de contrats, constitue à Épernay comme dans les autres communes et agglomérations concernées, une occasion à saisir pour travailler sur de nouvelles pistes d'action permettant de contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Ce travail sera porté par notre collectivité avec ses partenaires et les services déconcentrés de l'État, mais aussi la population déjà représentée au sein du Conseil de quartier. Nous avons eu l'occasion l'autre jour de faire la présentation des nouveaux contrats de ville. Il est possible que, compte tenu des événements du début d'année, leurs axes de travail soient quelque peu modifiés, mais nous resterons éligibles cette année encore et les années qui viennent aux contrats de ville, même si les zones concernées par l'éducation prioritaire, les zones concernées par les anciens contrats urbains de cohésion sociale sont en diminution sur Épernay. En matière scolaire, l'équipement numérique de nos écoles se poursuivra pour un montant de 74 100 euros avec les tableaux numériques interactifs installés cette année à l'école Jean Jaurès. Toutes les classes élémentaires de la ville, y compris les CLIS, seront dotées de matériel permettant un accès facilité à la connaissance. Toutes les collectivités ne sont pas équipées comme la nôtre. C'est donc un atout incontestable pour le secteur éducatif d'Épernay. Nous poursuivrons le déploiement de TNI ou de tablettes dans les écoles maternelles en fonction des projets des établissements, puisqu'il est important de prendre appui sur la motivation des équipes enseignantes. Au cours des derniers mandats, les bâtiments des écoles maternelles et élémentaires sparnassiennes ont tous été remis à niveau. Ils seront donc concernés cette année uniquement par des interventions d'entretien ou d'aménagement courant. Par le biais du dispositif de réussite éducative, nous poursuivrons la lutte contre l'échec scolaire. Pour pallier la diminution des aides de l'État qui touche au domaine également, nous consacrerons 22 000 euros supplémentaires au financement de la Caisse des écoles porteuse de cette politique. S'agissant des rythmes scolaires, dont je rappelle qu'ils représentent un surcoût pour la collectivité de 370 000 euros, la mise en place du comité de suivi du projet éducatif de territoire permettra d'établir le bilan d'une première année de fonctionnement et d'apporter, si nécessaire, des modifications. Un nouveau rendez-vous dénommé « Nos têtes ont des jambes » réunira fin juin les élèves de CM2 pour une journée associant sport, culture et citoyenneté avant leur passage au collège. C'est une opération qui sera menée, évidemment, dans le cadre des moyens budgétaires constants. Pour ce qui concerne la restauration scolaire, une étude d'un coût de 30 000 euros va être réalisée pour doter d'un satellite de restauration, l'école de l'horticulture, dernier établissement de la ville qui en est encore dépourvu. 24 600 euros seront également consacrés au remplacement de matériel d'un certain satellite. Et je parle de certains satellites évidemment déjà existants. Après que la production des repas destinés au portage à domicile a été confiée l'an dernier au centre hospitalier, 2015 va marquer l'externalisation de la production des repas destinés à la restauration scolaire. Cette décision est prise pour éviter notamment d'avoir à investir dans une nouvelle cuisine centrale, celle actuellement en service, devenant à bien des égards obsolète. L'emploi des personnels titulaires demeurera bien entendu assuré. Enfin, 2015 marquera le regroupement du service éducation et du CCAS dans l'ancien bâtiment de Pôle emploi racheté par la ville rue Cézanne. Les coûts d'aménagement sont estimés à 80 000 euros et la revente du plateau occupé jusqu'alors au premier étage du 40 place Bernard Stasi permettra de financer ce transfert, améliorant les conditions d'accueil du public et de travail des agents. L'un des enjeux que nous avions, c'était aussi, vous vous en doutez, de rendre ces services accessibles aux personnes, alors qu'au premier étage de mairie 2, ils ne l'étaient pas. Pour ce qui concerne le cadre de vie, c'est un montant de 2 400 000 euros qui sera consacré à la poursuite de la requalification de la voirie communale. Outre des interventions ponctuelles comme chaque année, les principales opérations concerneront l'allée d'Artois, les rues René-Lemaire, Tourbiron, la rue de Bourgogne, la rue Croix-de-Bussy et la rue Dom-Pérignon notamment. Ces voies s'ajouteront aux 28,5 km rénovés depuis 2001 sur les 65 km que compte la voirie communale. En matière d'aménagement urbain, se poursuivront les études concernant la reconversion du site des anciens ateliers ferroviaires pour en faire un nouveau quartier sparnassien, le quartier Berge de Marne, et nous investirons jusqu'à 90 000 euros d'études cette année sur ce quartier. Des études vont également être réalisées pour permettre à terme la plantation de vignes sur les terrains situés sur le Mont Bernon et appartenant à la ville. La location de ces terrains situés en zone d'appellation permettra de générer des ressources financières bienvenues en ces temps de rigueur. Par ailleurs, afin de rendre possible la réalisation d'un lotissement de maisons individuelles dans le secteur du chemin du Platé, la ville continuera d'y acquérir de nouveaux terrains pour 133 000 euros cette année. Elle deviendra également propriétaire d'une parcelle à proximité de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Il s'agit ainsi de disposer dans ce quartier de la maîtrise d'emprise foncière permettant à terme de rendre possible la réalisation d'une coulée verte partant du parc de l'horticulture pour aboutir au square Raoul Chandon. S'agissant de nos équipements, plusieurs chantiers importants vont marquer l'année 2015. Au premier trimestre débutera la rénovation du parking souterrain des Arcades, 599 700 euros sur l'exercice budgétaire. Ce parc de stationnement est le plus important de la ville, mais il est aujourd'hui sous-utilisé. Il doit être remis aux normes de sécurité et d'accessibilité et entièrement rénové. Il verra son organisation profondément modifiée afin d'en faciliter l'usage aux automobilistes qui bénéficieront ainsi d'un équipement conforme au niveau de la qualité de l'aménagement du centre-ville. Et son utilisation rationalisée permettra une fréquentation plus importante par les clients du commerce local. À Bernon, l'ancien parking Lalo va être reconverti en locaux d'activité où seront réimplantées la Régis Parnassienne et l'ensemble des services espaces verts de la ville. Ces abords seront également réaménagés pour un montant de 934 500 euros sur l'exercice présent. Par ailleurs, le nouveau centre commercial du quartier vient d'accueillir il y a quelques jours le bureau de la Poste après une supérette, une boulangerie, une boucherie. Une partie de l'ancien linéaire commercial a été démolie en fin d'année dernière. Avant que cette démolition ne se poursuive, la partie du bâtiment qui sera conservée du côté de la place Falaine-Gourma sera rénovée pour accueillir une brasserie et une activité de restauration et traiteur. Et nous avons prévu pour ces opérations 207 000 euros sur le budget 2015. Enfin, les services techniques municipaux bénéficieront de deux investissements notables, le remplacement d'un chariot élévateur à mât télescopique pour 95 000 euros et le remplacement de deux chaudières au serre municipal pour 30 000 euros. Dans le domaine de l'animation et de l'activité d'une manière générale, le principal dossier reste celui du futur musée d'archéologie du vin de Champagne. Dans la poursuite des études déjà engagées en matière de programmation, une étude structurelle du bâtiment du château Perrier sera financée pour un montant de 30 000 euros sur 2015. Et comme le précise une délibération de cette séance du conseil municipal, un nouvel agent va être recruté. Il s'agira d'un assistant de conservation qui sera chargé de la mission aux côtés de la conservatrice, de documenter et informatiser les collections, ainsi que de coordonner les mouvements des œuvres à l'occasion de leur restauration et de leur futur déménagement. En effet, pendant le chantier de réhabilitation et de modernisation du château Perrier, les collections devront être entreposées dans un local extérieur qui aura pour vocation à devenir le centre de conservation des œuvres lorsqu'elles ne seront pas exposées au musée. Le choix s'est porté sur l'ancien magasin Lidl, situé rue Édouard Vaillant, que la ville va acquérir pour un montant de 844 000 euros. Une somme de 100 000 euros sera ensuite consacrée à la définition de sa reconversion définitive en centre de conservation. Autre équipement culturel bénéficiant d'investissement, la médiathèque Centre-Ville verra, après le changement de ses chaudières l'an passé, son réseau de chauffage modernisé à hauteur de 55 000 euros. En matière événementielle, les musiques d'été évolueront vers une manifestation autour de la voix, d'un coût inférieur aux éditions précédentes. Elle figurera au calendrier sparnassien comme la célébration du 14 juillet, la fête de la bière ou les habits de lumière. S'agissant des manifestations sportives, un certain nombre de rendez-vous sont d'ores et déjà fixés. Peuvent être par exemple citées les finales zone Est de gymnastique en mars, la Three Nations Cup de rugby universitaire avec France-Angleterre et France-Pays de Galles en avril, ou la défense de son titre par Amira Hamzaoui également en avril. Quant à l'édition 2015 du rallye Épernay Vin de Champagne, elle deviendra la première épreuve du championnat de France. Preuve, s'il en est, de la qualité de cette épreuve à la notoriété croissante. Toujours en matière sportive, 2015 verra le développement du projet Sport Santé, par lequel la collectivité va contribuer à fédérer les initiatives existantes sur notre territoire et portées pour partie par le tissu associatif. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une offre cohérente répondant aux besoins de toute personne présentant des facteurs de risque. À ce titre, comme les 10 rendez-vous du samedi créés il y a 4 ans pour les scolaires, les 10 rendez-vous seniors ont aujourd'hui vocation à développer la pratique sportive en direction d'un nouveau public. Pour ce qui concerne l'investissement dans le domaine sportif, la principale opération consistera en une contribution au remplacement du générateur d'air chaud assurant le gonflement de la bulle protégeant les tennis de la société nautique pour 35 000 euros. 2015 sera également une année qui prépare l'avenir de notre territoire. Évidemment, 2015 sera synonyme d'examen par l'UNESCO de la candidature Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au patrimoine mondial. C'est en effet début juillet, je vous l'ai déjà dit, que sera connue la décision de l'UNESCO. L'enjeu est évidemment important pour notre ville, qui a été étroitement associée à cette candidature par la valeur de son site témoin de la Nuit de Champagne, mais aussi du fait de son statut de membre fondateur de l'association Paysage du Champagne, avec une cotisation renouvelée à hauteur de 15 000 euros cette année. Comme tous les Champenois, il s'agit pour les Sparnassiens de voir d'abord reconnu le caractère universel de ce qui fonde pour partie leur identité. Fruit du labeur des générations passées et du travail des vignerons et négociants, ce patrimoine vivant nous appartient à tous en commun et nous voulons le partager avec des visiteurs venus du monde entier. Le poids du secteur touristique est croissant. À côté du développement des zones économiques que nous avons confiées à notre intercommunalité, ce secteur contribue à la diversification du tissu économique local. Et même si certains semblent en douter, le tourisme constitue un des axes de développement à privilégier dans notre territoire. Afin d'accompagner l'éventuel classement du patrimoine mondial de l'UNESCO, Épernay, reconnue commune touristique depuis 2013, a entamé une démarche pour être classée station de tourisme. Avec l'évolution également de l'Office du tourisme vers un statut dit de première catégorie, avec le partenariat renforcé avec la communauté de communes, il s'agit de disposer d'outils facilitant l'accueil des acteurs touristiques, favorisant leur activité sur notre bassin de vie. Il s'agit aussi de conforter la notoriété de la destination que représente Épernay. À terme, comme pour le projet golfique que suit la communauté de communes, l'objectif très concret est de créer évidemment de nouveaux emplois. Outre ces importants dossiers, le développement touristique passe aussi par l'amélioration de nos infrastructures. La modernisation du camping sera ainsi poursuivie cette année avec la mise aux normes d'une nouvelle tranche de bornes électriques et l'extension de leur nombre pour un investissement de 35 000 euros. 2015 verra également l'aboutissement de la réflexion menée avec les Sparnassiens pour définir le nouvel agenda 21 de notre commune pour les 4 années à venir. Celui-ci sera présenté en avril prochain. Des actions en matière de réduction des gaz à effet de serre, de protection de notre environnement et de la biodiversité, mais également de civisme, seront ainsi mises en œuvre. Nous y reviendrons à cette occasion, c'est-à-dire au printemps prochain. En matière d'urbanisme, l'année qui débute constitue également un enjeu important. Elle marquera en effet la finalisation de la révision de notre PLU, plan local d'urbanisme. Il s'agit de préserver un cadre de vie de qualité, qu'il soit bâti ou naturel, caractéristique d'Épernay, tout en favorisant le développement du territoire. Le conseil municipal sera amené à se prononcer sur le projet de PLU avant que celui-ci soit soumis à l'appréciation des Sparnassiens. Il en sera de même avec l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Derrière ce terme abscon que résume l'acronyme AVAP se cache l'évolution nécessaire de notre zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette évolution que nous menons de concert avec la révision du PLU a été un élément important du dossier de la candidature pour l'UNESCO. Elle démontre la volonté des Sparnassiens d'assurer la protection de leur patrimoine, tout comme le travail mené pour mettre en place un pays d'art et d'histoire qui passe par la mobilisation aux côtés des Pernais de communes de notre bassin de vie. Je forme le vœu, puisque c'est encore la période, que cette démarche ne soit pas prise en otage, comme les nécessaires avancées pour la constitution d'une communauté d'agglomération, par des considérations personnelles et de sauvegarde à tout prix, c'est-à-dire contre l'intérêt collectif de titres et de positions. Voilà, mes chers collègues, énoncées les principales actions nouvelles du budget municipal pour 2015. C'est incontestablement le budget le plus difficile de ces 40 dernières années et je crains, comme la plupart de mes collègues maires, que 2016 soit plus difficile encore. La cause principale est évidemment à rechercher du côté de l'État qui, s'il persiste dans ses intentions, risque de porter un coup fatal à la décentralisation et à la qualité du service public local. En les remerciant, je veux à nouveau souligner le travail des élus et des services qui a permis d'aboutir à la maquette budgétaire soumise ce soir à votre examen. Et avant d'entamer notre débat, je propose à Christine Mazzi de nous rappeler les principaux indicateurs financiers de façon à ce que vous ayez un éclairage complet avant que ne s'engage notre discussion budgétaire. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose donc d'examiner dans un premier temps le budget primitif 2015 de la ville d'Épernay, puis ensuite nous aborderons les budgets annexes, notamment le camping, le parking, les cuisines centrales, chauffage urbain et les cellules commerciales Saint-Thibault et depuis ce premier budget, la nouvelle zone commerciale Bernon. Alors, je vous rappelle que le budget est constitué de deux parties, donc la partie fonctionnement et puis la partie investissement. Merci. Donc, dans les analyses qui vont suivre, nous avons choisi de travailler sur les données des budgets primitifs. Donc, ce sera important à, à bien l'avoir en tête. Il s'agit des données des budgets primitifs précédents. Donc, dans un premier temps, les dépenses de fonctionnement. Donc, en ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, donc nous sommes repartis depuis 2009. Donc, je vous rappelle que les dépenses de fonctionnement sont composées des dépenses réelles et des dépenses d'ordre. Donc, les dépenses d'ordre, ce sont les dépenses qui correspondent à l'amortissement et au virement. Donc, ces dépenses globales diminuent de 3% par rapport au budget 2014. Donc, le graphique, là, nous projette les dépenses réelles. Et elles nous font ressortir donc l'évolution de ces dépenses depuis 2009. Hein, donc ça représente le volet financier de la collectivité. Alors en vert, on observe le volume annuel. Et dans les cercles jaunes, rouge-jaune, hein, bordés de rouge, c'est l'évolution en pourcentage par rapport à l'année précédente. Donc en 2015, on remarque que nos dépenses réelles de fonctionnement vont diminuer de 1,5%. Ce qui représente 578 000 euros si on compare par rapport à 2014. Donc je précise que cette augmentation des dépenses intègre l'évolution du fonds de péréquation, le FPIC. Alors les dépenses de fonctionnement se composent également des dépenses d'ordre, donc qui sont en gris sur le graphique. Donc les dépenses d'ordre, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont les amortissements et les virements. Donc, le virement de la partie fonctionnement à la partie investissement. Donc, ces dépenses réelles diminuent de 1,5%, comme on vient de le voir, par rapport à 2014. Donc, ces dépenses sont constituées en majorité, donc vous voyez, 44%. Non, on va continuer. Donc pour 44% par les dépenses de personnel, donc qui sont en bleu sur le camembert. Les charges de gestion, 19% en jaune. Les subventions au budget annexe, donc qui sont en mauve. Les subventions là, aux associations, donc en vert. Les charges financières, donc qui correspondent aux frais financiers des emprunts, et puis le fonds de péréquation, donc qui est en fuchsia, qui représente là 2% des dépenses de fonctionnement. Et si on compare par rapport à nos charges financières, donc on remarque que le fonds de péréquation représente une partie plus importante que les charges financières des emprunts. Si on regarde un petit peu l'évolution des charges de personnel, alors villes et annexes confondues, entre 2014 et 2015, donc on note une baisse d'effectifs de 5 postes. Donc en 2015, on a au niveau des dépenses une hausse de 1,56% malgré une baisse d'effectifs. Donc cette augmentation est due, comme on l'a vu tout à l'heure, à la poursuite du reclassement de la catégorie C, hein, suite à l'augmentation, pour se reclasser par rapport à l'augmentation du SMIC. Alors ça représente une masse assez importante, puisque la catégorie C représente 76% de l'effectif de la ville et des annexes. On a également l'impact de l'aménagement des rythmes scolaires, qui explique cette augmentation, et puis l'augmentation des charges patronales de retraite, que sont l'IRCANTEC notamment. Donc tout ça, malgré une baisse des effectifs, on note une augmentation des dépenses concernant les charges de personnel. Si on examine maintenant les charges de la dette, donc les charges de la dette sont en baisse par rapport au budget 2014, hein, on le voit bien sur le graphique, donc une baisse de 18%, soit 180 000 euros. Donc c'est le plus faible niveau enregistré depuis 2002, on est reparti de 2002. À noter que le taux moyen global de notre dette sur 2015 sera de 2,32% contre 2,72% en 2014. Donc on a diminué le taux moyen. Si on examine maintenant la dette par type d'emprunt, donc Le graphique nous montre la répartition de la charge par type d'emprunt. Donc on remarque que 41% de nos prêts sont à taux fixe et que 59% sont sur du taux non fixe. Donc notamment indexés sur le livret A, par exemple, hein, ou à taux variable. Donc, la faiblesse de cette charge de la dette résulte du fait que la ville a su diversifier cette dette en souscrivant des emprunts à taux variable à une période où les marges sur ces produits étaient très faibles. De plus, nous avons une dette sécurisée, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque 93% de notre encours est classé, selon Gisler, 1A et 7% 1B. Le graphique suivant nous montre l'évolution du FPIC, le fonds de péréquation. Donc, parmi ces dépenses de fonctionnement, on a bien sûr cette charge qui est apparue en 2012 dans notre budget. Donc, il s'agit du fonds de péréquation. En 2015, l'estimation de ce fonds pour la ville d'Épernay est de 868 000 euros et 1,7 million pour l'ensemble du territoire de la CCEPC. Donc, cette dépense a la spécificité de croître considérablement jusqu'en 2016 pour atteindre en 2017 2% des recettes fiscales au niveau national. C'est l'objectif fixé. Sur notre territoire, c'est-à-dire celui de la communauté de communes, l'évolution prévisionnelle du fonds de péréquation nous amènerait à acquitter un montant total de 2,4 millions d'euros, répartis à partie équivalente, 1,2 million pour la ville et 1,2 million pour la communauté de communes. Donc la contribution pour la ville d'Épernay serait donc ainsi de 1,2, ce qui représente 1,2 million d'euros, pardon, ce qui représente plus de 3% des dépenses réelles, ce qui dépasse ainsi, comme on l'a vu tout à l'heure, la charge de la dette. Ce qui correspond également à 6 points de fiscalité pour 2016. Autre dépense de fonctionnement, les subventions aux associations. Donc, la participation aux associations est en baisse pour répondre à l'effort collectif. Cette baisse est de 117 000 euros et correspond à un peu plus de 3% et correspond à 4% hors valorisation, puisque sur le graphique, on vous a indiqué les subventions, donc en violet, les subventions aux associations, et en mauve, on a indiqué la valorisation, hein, c'est-à-dire lorsque les associations bénéficient d'équipements ou de locaux qui leur sont loués, et ensuite la ville reverse par le biais de subventions l'équivalent de ce loyer. La subvention cette fois au satellite. Donc on a regroupé les différents budgets annexes. Donc là en rose le CCAS, en bleu les budgets annexes, c'est-à-dire le camping et la cuisine centrale, en vert l'école de musique, en jaune la caisse des écoles et en bleu la plaine d'Aï. Donc le montant des subventions aux différents satellites est en hausse de 5,3% par rapport à 2014, comme on le voit sur le budget, soit une variation de 243 000 euros. Donc cette augmentation se justifie par une subvention supplémentaire au budget annexe cuisine centrale suite au transfert de l'achat des repas entre la cuisine centrale et l'hôpital, puisque les repas qui étaient élaborés pour les seniors ne sont plus élaborés par la cuisine centrale, mais par l'hôpital. Une augmentation de subvention à la caisse des écoles pour pallier à la diminution des recettes de l'État dans le dispositif de réussite éducative. Et puis, également une subvention supplémentaire au CCAS de 79 000 euros pour pallier là également à l'augmentation des charges salariales suite à la revalorisation de la catégorie C. Alors, dépenses suivantes, donc les charges de gestion, pardon, au sens large, donc c'est ce qui concerne toutes les autres dépenses réelles de fonctionnement. Donc on voit sur ce graphique qu'elle diminue de 11% par rapport au budget 2014. C'est un choix de la collectivité de diminuer ses dépenses, ceci afin de ne pas répercuter sur le contribuable les pertes de dotation de l'État et l'augmentation du fonds de péréquation. Cet effort est d'autant plus important que la commune a dû prendre en compte des dépenses liées à l'aménagement des rythmes scolaires, comme on vient de le voir. La diminution par rapport au budget 2014 est de un peu plus d'un million d'euros. Parmi les plus significatives, on peut noter, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, donc la suppression de certaines manifestations ou alors la révision à la baisse de certaines manifestations. une révision du marché de la régie sparnassienne suite au nouveau périmètre de leur intervention, également la diminution des taxes foncières suite à la mise à jour des locaux qui sont assujettis. Donc après les dépenses, passons aux recettes de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement varient bien sûr dans la même proportion que les dépenses par rapport au budget précédent. Les principales composantes sont la fiscalité et la dotation. Et les dotations. Donc sur le petit graphique en haut à gauche, c'est une représentation, on va dire, purement comptable des recettes. Donc les dotations et la fiscalité qui représentent 94% de nos recettes réelles. Hein, donc en vert, comme vous le voyez, les impôts et taxes, et en gris, les dotations de l'État. Et puis la partie restante, soit 6%, ce sont des recettes de gestion. Si on entre un petit peu plus dans le détail et qu'on s'intéresse là cette fois sur la fiscalité sur laquelle on peut agir, donc la fiscalité à pouvoir de taux, donc par ordre décroissant de pouvoir d'action, on les a classés un petit peu comme ça, donc la fiscalité à pouvoir de taux, qui est par exemple la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe sur le foncier non bâti et la cotisation foncière des entreprises, cette fiscalité représente 46% de nos recettes. C'est ce qui est en vert foncé sur la gauche du graphique, donc les 38% de fiscalité des ménages et les 8% de la fiscalité des entreprises à pouvoir de taux. Notre pouvoir se matérialise par le vote annuel des taux de ces quatre taxes que je viens de vous citer. Ensuite, si on continue vers la droite, en vert clair, 6% des recettes de gestion, là pardon, non, on est dans le jaune, là les 6% des recettes de gestion. Et puis ensuite, donc, la fiscalité sans pouvoir de taux, qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe sur les surfaces commerciales et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Donc c'est ce qui est en vert clair, là, cette fois, qui représente 6%. Les dotations, cette fois, qui sont constituées qui correspondent, pardon, aux 21%, voilà, les dotations de l'État, hein, qui représentent 36%, puisqu'on a inclus aux 21% les 15% de compensation fiscale. Hein, parce que les compensations fiscales, ce sont des sommes qui sont reversées par l'État pour compenser des pertes de recettes fiscales. Donc on les a classées aussi à la fois dans les dotations de l'État et à la fois dans la fiscalité. Notre autonomie fiscale se réduit donc désormais à 46% de nos recettes réelles, alors que notre dépendance vis-à-vis de l'État atteint plus de 36% de nos recettes. Donc si on regarde l'évolution des principales recettes des chapitres impôts et taxes et dotations, donc on voit qu'elles s'élèvent à 39,5 millions d'euros, ce qui représente 94% des recettes réelles de fonctionnement, dont les principales composantes sont représentées sur le graphique qui est indiqué ici. Donc le produit fiscal des ménages et la part foncière de la fiscalité des entreprises sont estimés à hauteur des sommes perçues en 2014, avec une valorisation des bases décidée par le Parlement de 0,9%. Alors, on observe malgré tout une petite diminution parce que nous sommes partis sur les sommes perçues en 2014, alors qu'ici, sur le graphique, il s'agit du budget, la projection du budget primitif 2014. Donc, ça explique, on dit qu'on augmente, alors que sur le graphique, vous voyez une petite diminution. Pour ce qui est de la fiscalité des entreprises, hors cotisation des entreprises, le montant prévisionnel notifié par les services fiscaux fin 2014 est en baisse par rapport au budget primitif de 275 000 euros. Les dotations et compensations versées par l'État sont en baisse également. En effet, en plus du dispositif de l'enveloppe normée qui amenuise chaque année les dotations que nous percevons, le gouvernement a décidé de réduire le concours de l'État aux collectivités territoriales de 11 milliards sur les trois prochaines années, ce qui représente 3,67 milliards d'euros de 2015 à 2017. Donc en 2015, cette diminution va représenter une perte de notation de 1,2 million d'euros pour la ville d'Épernay, ce qui représente un peu plus de 10% par rapport à 2014. Rappelons que depuis 2006, la ville d'Épernay a stabilisé sa pression fiscale, a même baissé ses taux en 2007 et 2008. En 2015, les taux municipaux de la fiscalité locale n'augmenteront pas, et ceci malgré l'augmentation du fonds de péréquation qui correspond à près de 4,5 points de fiscalité. Parce que je vous rappelle qu'un point correspond à peu près à 190 000 euros. Voilà pour cette section fonctionnement. Si nous passons maintenant à la section d'investissement, donc avant d'étudier cette section, il convient de rappeler que l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, qui s'élève à 4,43 millions d'euros, qui est en diminution de 940 000 euros, c'est une composante importante du financement de nos équipements. Donc, comme le montre très bien ce schéma, donc ce schéma expose les recettes à droite et les dépenses à gauche d'investissement, ainsi que le mode de financement des équipements. Donc, à gauche, les dépenses sont constituées en rouge par le remboursement de la dette et en jaune par les dépenses d'équipement. À droite, les recettes sont composées de l'emprunt en rouge, des subventions en orange, des fonds propres en vert et l'autofinancement net en gris. Donc, dans l'encadré fuchsia qui a été mis, le rectangle, après affectation d'une partie de notre autofinancement en gris au remboursement de nos emprunts, apparaissent les modalités de financement des équipements. Donc, à savoir, pour financer nos équipements, nous avons recours, bien sûr, à nos fonds propres pour 34%, aux subventions pour 13%, à l'emprunt pour 36%. Donc, une partie de l'autofinancement sert, bien sûr, à financer nos dépenses d'équipement. C'est un choix. Je tiens simplement à vous rappeler aussi que l'autofinancement doit couvrir l'intégralité du remboursement de la dette. Donc, si on regarde un petit peu plus l'évolution de l'encours de la dette à la ville d'Épernay depuis 2002, on voit que l'encours de la ville a bien diminué. Fin 2014, cet encours s'élève à 32,8 millions d'euros. Avec les budgets annexes, l'encours est de 34,4 millions d'euros au 31 décembre. Fin 2015, l'encours de la ville et de ses annexes sera également de 34,4 millions d'euros, puisque la collectivité a fait le choix de maintenir l'encours de la dette à niveau identique. L'encours de la dette sur le budget principal de la ville sera en baisse de 800 000 euros. Dans le même temps, par contre, celui des budgets annexes augmentera, lui, de 800 000 euros, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des travaux, des investissements prévus, l'aménagement du parking des arcades, ainsi que la construction ou la réhabilitation des cellules commerciales de Bernon. Donc, les dépenses d'investissement de la ville et des annexes, donc en rouge, le remboursement de la dette, en vert, les dépenses d'équipement. Donc, comme pour les recettes dont elles dépendent, les dépenses d'investissement évoluent de manière non linéaire, puisqu'elles sont liées, bien sûr, elles sont liées au financement et au projet. Donc, de bas en haut, on retrouve en rouge le remboursement en capital des emprunts, 3,5 millions d'euros. Et en vert, le montant des dépenses d'équipement, 6,4 millions d'euros. 7,4 si on y intègre, comme on a vu tout à l'heure, les budgets annexes. Donc, les budgets annexes. Donc, il y en a 6 cette année. Oui, 2015, nous sommes en 2015, un de plus que l'année précédente, puisque nous intégrons cette année un nouveau budget annexe qui correspond aux cellules commerciales de Bernon. Le montant des budgets annexes en fonctionnement est de 3,2 millions d'euros en 2015, soit une diminution de 306 000 euros, soit 8,7%, si on considère de BP à BP. Le chauffage urbain est en baisse de 7,8% en raison de la modification de la formule de révision du calcul du chauffage et de la diminution du prix du gaz également. La diminution du budget de la cuisine également de près de 10%, puisque trois agents de la cuisine ont été transférés au budget principal de la ville, puisque ils ont été affectés sur des sites de restauration. Et puis la baisse des dépenses du parking qui se justifie par la fermeture du parking des Arcades au dernier trimestre 2015 dans la projection des travaux. Les principales dépenses d'équipement sur les budgets annexes sont, on vient d'en parler, le parking des Arcades, les cellules commerciales de Bernon, et puis au niveau du camping, la création et la mise aux normes des bornes électriques. Et enfin, la cuisine, remplacement de matériel pour les satellites de restauration. Voilà les projections pour le budget 2015. Je vous remercie.
Merci pour le détail de ces différents budgets. Je rappelle que nous procédons là à l'examen des budgets ville et budget annexe. Hein. Il est question, Monsieur Angers.
Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais peut-être commencer par une boutade parce que la soirée prête pas forcément à rire, donc peut-être mieux en profiter tout de suite. À écouter votre propos, moi ça m'a rappelé, je ne sais plus, une chanson ou une comptine qu'on chantait quand on était enfant, c'était « C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur ». Et en fait, j'ai retrouvé plusieurs couplets que je voudrais bien vous décliner. C'est pas moi, c'est ma sœur. C'est pas nous, conseil municipal, c'est l'État qui fait que ce soir, nous allons voter un budget significativement à la baisse. Pas un mauvais budget, peut-être. Moi, je crois que c'est avoir un peu la mémoire courte, monsieur le maire. Je n'ai pas oublié que lors des dernières élections municipales, vous étiez à la fois UDI, UMP, vous avez trouvé d'ailleurs quelques UMP compatibles à associer à votre liste. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'une des composantes de la dette de l'État, elle a été portée par celui qui était candidat à UMP aux élections 2012, que vous avez soutenu allègrement au deuxième tour de ces élections présidentielles. Je parle de Nicolas Sarkozy, qui, en prenant les affaires en 2007, avait déjà un budget effectivement déficitaire, puisque malheureusement le problème n'est pas d'hier, mais avec un plafond à 1 200 milliards d'euros, soit à l'époque 63,9% du produit intérieur brut de dette, et il a porté ça quand même en 5 ans à 1 788 milliards d'euros, soit 89,1% du PIB. Bel exploit. Alors, aujourd'hui, on parle de compenser, donc Hollande, on peut le regretter, effectivement, demande aux collectivités territoriales de mettre au pot sur la base de 11 milliards d'euros sur 3 ans. Donc, d'un côté, 588 millions de dettes emportées par Sarkozy en 5 ans.
Milliards.
Vous avez dit milliards. 588 milliards d'euros. D'un autre côté, 11 milliards d'euros remboursés sur 3 ans. Et on voit les effets dévastateurs sur notre collectivité territoriale et effectivement sur un certain nombre de collectivités de ce pays. Ça pose une question quand même sur la capacité de certains à vouloir gérer les affaires, la capacité d'autres à s'inscrire derrière eux. Ça pose des questions de savoir, effectivement, il y a un moment où il faut quand même se prendre par la main et puis faire en sorte de ne pas laisser tout cela à nos générations qui nous suivront. Ou alors, il y a peut-être encore une dernière solution, c'est que la ville d'Épernay demande assistance au FMI, comme peuvent le demander certains États. Non, je plaisante. Mais il me semblait important, après votre propos de ce soir, après toute une série de vœux, j'ai senti vos propos très enflammés à l'encontre de l'État, de rappeler quelques responsabilités. Deuxième couplet de « c'est pas moi, c'est ma sœur », et là, couplé un petit peu par oubli, il y a un sujet dont vous n'avez pas évoqué les effets dévastateurs sur la construction de ce budget et puis de ceux qui suivront, parce que c'est un sujet où on vient de s'apercevoir que vous avez là aussi une part de responsabilité, c'est celui de la démographie. Épernay perd des habitants. Alors maintenant, on ne peut plus dire que c'est la faute de la région, c'est pas la faute, c'est plus la faute à Bachy, puisque Bachy, la région augmente en nombre d'habitants, donc on ne peut plus incriminer Bachy, Étienne, Bernard Stasi, non pas quand il était maire d'Épernay, mais président du conseil régional, puisque aujourd'hui la région gagne 0,24% d'habitants. Même le département de la Marne, 0,38. Reims gagne des habitants, 1000 habitants au dernier recensement. Chalon sera en situation stationnaire. Épernay est le mauvais élève de la classe. Nous avons une situation sinistrée dans le domaine de la démographie à l'identique de Sainte-Menou. J'ai rien contre les amis ménéidiens, mais les conditions de vie à Sainte-Menou ne sont pas les mêmes que celles d'Épernay. L'espace économique de ce secteur est nettement moins porteur que celui d'Épernay du bassin de vie sparnassien. Non, je pense que tout simplement, ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est quand même des choix et des orientations politiques qui n'ont pas été les bonnes au cours de ces dernières années, au cours de ces 15 dernières années notamment. On va prendre cette tranche-là, comme ça on sait tout de suite de qui et de quoi on parle. Qu'est-ce qui s'est passé donc à Épernay durant cette période? Eh bien, aujourd'hui, à Épernay sont partis les gens issus de la classe moyenne et ouvrière. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que notre potentiel fiscal est plus élevé. Madame Mazzi vient de l'évoquer au travers de la présentation tout à l'heure. Nous sommes une ville qui alimentons la péréquation fiscale, parce que nous avons un potentiel fiscal beaucoup plus élevé que dans d'autres secteurs, et donc nous payons à ce titre. Donc les élites restent à Épernay, les pauvres restent à Épernay, et nous n'avons plus le spectre social complet, avec des classes qui sont aujourd'hui complètement parties. Moi, ce qui me gêne dans votre budget, dans les orientations qu'il y a derrière celui-ci, c'est que vous ne voulez pas mettre en œuvre de politique ou de stratégie qui viserait à compléter, à garantir, je dirais, ce spectre social beaucoup plus large et de l'élever. Alors après, on peut toujours, effectivement, mais c'est un autre sujet, un autre débat, être sur le régime de la lutte des classes et effectivement faire en sorte que les classes les plus basses puissent s'élever. Moi, aujourd'hui, je parle de classes qui n'existent plus à Épernay. Et quand j'évoque la nécessaire réindustrialisation de notre territoire, parce que je comprends le choix que vous faites autour du tourisme, et on n'est pas contre. On a dit qu'on vous soutiendrait derrière le projet de musée. On est intéressé. J'ai travaillé activement par le passé sur ce sujet, sur le dossier UNESCO, pour effectivement pouvoir faire en sorte que notre territoire soit davantage visité. Nous sommes derrière ces dossiers. Ce que l'on dit, attention, ne faisons pas un soutien exclusif à la mono-industrie, à la monoculture. Nous avons besoin d'une diversification. Moi, je milite, c'est pour ça d'ailleurs que je fais de la politique, pour une société qui soit la plus large possible et dans laquelle chacun puisse trouver sa place, à la condition que on veuille bien se donner les moyens d'organiser la société dans ce sens. Alors, oui, choix du tourisme. Écoutez, moi, j'ai bien entendu les objectifs qui sont ceux de faire notamment d'Épernay une station touristique. Mais je ne voudrais pas qu'on se trompe de débat non plus, parce que derrière, il y a quoi ? Il y a surtout la volonté pour un certain nombre d'acteurs de s'engager vers une précarisation de leurs salariés, vers une saisonnalisation des activités de leurs salariés. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À la limite, si ça, à côté, c'est compensé par une volonté, un militantisme pour créer des emplois pérennes à côté, y compris dans d'autres métiers, dans d'autres vocations. Nous, on a dit, il y a d'autres ressources sur notre territoire. Quel dommage de ne pas les utiliser, ces autres ressources sur notre territoire. Bachy a fait un boulot phénoménal autour du pôle de compétitivité pour que derrière les métiers innovants puissent être imaginés sur l'usage nouveau des matières et des matériaux agricoles. Nous aurions toute vocation à prendre notre place là-dessus. Et si à plusieurs reprises j'ai avancé dans ce domaine-là l'idée de faire en sorte de maintenir une activité économique sur le secteur que vous appelez Berge de la Marne et que vous convoitez pour d'autres destinations, c'est parce que l'avantage qu'il y a, c'est que c'est couplé directement avec le ferré. Quand je vois comment les Bretons se sont battus pour ne pas payer d'écotaxes, alors que la vocation était justement de faire en sorte de transporter le transport routier vers d'autres moyens alternatifs dont le ferré, nous, à Épernay, le ferré a construit l'histoire de la ville, a construit l'histoire industrielle de la ville, et nous voulons le détruire alors que nous sommes à un tournant. Autre point, pourquoi il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier ? Vous étiez à la Saint-Vincent, samedi dernier, vous avez entendu le discours de l'interprofession qui met un bémol, alors peut-être pas très fort, qui met un bémol sur une chose, sur les 2 degrés de réchauffement climatique qui seront là en 2050 et pour lesquels il faut déjà s'adapter. Et si on ne s'adapte pas, on ne passera pas le cap. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que notre région, notre vignoble, et notamment avec la prospérité du champagne qui est en place depuis 50 ans, a toujours vécu de cette manière cyclique dans l'histoire. Quand on reprend l'histoire depuis 300-400 ans, bah c'est comme ça, avec des cycles où ça se passe bien et puis des cycles où ça se passe moins bien. Et avant les 50 ans dans lesquels nous sommes encore, où ça se passe pas trop mal, avant il y a eu 70 ans où ça s'est très mal passé, au lendemain de la crise phylloxérique, avec les soulèvements du vignoble en 1911. Et tout ça, c'était lié à quoi ? Eh bien, à la monoculture, à la seule activité sur le territoire qui a pénalisé tout le monde. Donc aujourd'hui, donnons-nous les moyens de faire en sorte de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il est encore temps. Et moi, je vous invite à aller dans ce sens-là, parce que ne pas aller dans ce sens-là, ça pèserait également par rapport à d'autres arbitrages. Vous avez souligné tout à l'heure l'arbitrage dans lequel vous souhaitiez vous trouver en posture favorable, notamment par rapport à la communauté de communes d'Ailly. Et je trouve que vous y allez un petit peu fort et un petit peu en faisant des rondes d'épaule, et que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique déjà sur les projets avec les gens. Mais la posture dans laquelle on peut les placer, ça peut être aussi la posture dans laquelle nous allons nous trouver demain dans le G3, puisque bon, il est déjà question d'organiser le contrebalancier par rapport à la capitale régionale qui sera Strasbourg et de faire en sorte que l'entrée ouest de la région soit attractive. Je le conçois, mais je dis attention, aujourd'hui, nous rentrons en position de faiblesse au regard des chiffres et des statistiques démographiques, au regard de Reims qui va trouver, elle, les moyens d'aller sur le terrain de l'innovation en lien avec son université, en lien avec un certain nombre d'écoles. Et nous sommes sur le terrain de la rétractation, alors que nous avons matière, comme je l'ai précisé précédemment, à avoir un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons développer, diversifier, multiplier les intentions. Alors ça passe par beaucoup de militantisme, je vous l'accorde, ce n'est pas forcément quelque chose de gagné d'avance, mais je crois que c'est le challenge, malheureusement, qu'il nous importe de réussir. Troisième couplet de « c'est pas moi, c'est ma sœur ». Voilà, nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 10 ans. Oui, mais depuis 10 ans, un certain nombre de compétences qui étaient celles de la communauté de communes, sont aussi passées à la communauté de communes. Et je crois que ce qui nous importe, c'est quand même de regarder ce qu'il y a derrière ce bloc complet, commune, communauté de communes, parce qu'aujourd'hui, si des gens ne viennent pas vivre à Épernay, l'une des principales raisons, c'est quand même le niveau de la fiscalité. Alors on a beau ne pas l'avoir augmenté, on est quand même toujours, pour un certain nombre de gens qui pourraient venir rejoindre nos rangs, sur une situation où on les met en arrêtoire, et je trouve que c'est bien dommage. Je ne vais pas accaparer la parole toute la soirée, puisque je vais laisser un peu après la parole à mes collègues, et puis j'aurai peut-être l'occasion, quand j'aurai repris ma voix, de revenir sur certains sujets que j'ai un petit peu oubliés. Nous ne voterons pas ce budget, hein, ça ne vous étonnera pas, parce que je trouve que même s'il est réduit, même si ça vous chagrine de le voir réduit, on trouve qu'il est toujours orienté pour alimenter les mêmes intérêts et les mêmes orientations. Nous, on aurait souhaité qu'effectivement, il puisse prendre en compte un certain nombre de situations qui ne l'ont pas été par le passé, de mettre l'accent sur un certain nombre de points que je viens de souligner, et puis la société que vous souhaitez porter au travers de votre budget n'est pas celle qui reflète celle que nous souhaitons voir porter, et nous souhaitons, nous, qu'elle soit plus humaniste et qu'elle tienne compte du particularisme de tous.
Merci, monsieur. Ah, pardon, je pensais que vous aviez...
Non, je n'ai pas tout à fait terminé. Je reprends mon souffle. Permettez-moi de... Donc, j'ai dit que nous ne le voterons pas. On développera un petit peu, notamment sur la dimension sociale qui nous semble insuffisante. Moi, il y a d'autres aspects qui m'ont également un petit peu heurté, donc la notion économique. Également la notion logement, parce que je trouve que ce que l'on fait au niveau du logement et ce qui transparaît au niveau du budget est bien inadapté par rapport à la situation de notre ville. Alors certes, on a lâché les clés au toit champenois et le groupe fusionné dans lequel il se trouve désormais, mais sur le terrain, on se rend compte qu'on a également là aussi des situations inadaptées en l'état, que ce soit dans le domaine social, avec des gens qui sont en recherche de logement puis qui n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Donc il y a quand même des situations qui sont à régler dans ce domaine-là. Le logement qui relève des intérêts particuliers, si je puis m'exprimer ainsi, il a été porté dans des politiques qui sont aujourd'hui complètement contraires à celles que vous voulez mener. Je prends un exemple. Je prends un exemple, celui, par exemple, de la place des Arcades. Alors, effectivement, une place des Arcades, ça
place
serait...
Place Bernard Stasi, maintenant.
Place Bernard Stasi, excusez-moi. Effectivement, ça serait un endroit fabuleux. Je crois qu'en termes de station tourisme, ça peut être l'endroit sympa à en mettre sur... les photos du label station de tourisme, et puis essayer d'égayer un petit peu les soirées. Simplement, la difficulté, c'est que, et j'ai rien bien évidemment contre eux, mais c'est que tous les appartements qui sont autour de cette belle place sont habités par des personnes d'un certain âge, qui ne veulent plus qu'il y ait de bruit passé 8 heures du soir, qui, lorsqu'il y a une fontaine, demandent son démantèlement parce que le glouglou de la fontaine doit les gêner une partie de la nuit. Il ne me semble pas que là, on soit dans des stratégies globalement très adaptées pour se porter les unes les autres. Donc, bon, ça, c'est un aspect que je souhaitais mettre en avant. Et puis, l'autre dimension sur laquelle moi, je ne voterai pas, et on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est la politique du stationnement, et non pas, je dirais, le prix du ticket. C'est le fait de faire en sorte de sortir le véhicule d'Épernay. Et ça, c'est pas votre... On sent très bien que c'est pas votre volonté. Depuis 15 ans que vous êtes maire, le Jard, tel qu'il avait été conçu par votre prédécesseur, vous avez déjà fait en sorte de pouvoir le renier pour partie, pour pouvoir y remettre des véhicules. On sent que ça va pas dans le sens de l'histoire, que ça va pas dans le sens de votre histoire. Moi, je pense que dans une ville qui se veut demain pilier d'une inscription à l'UNESCO, sur laquelle, j'espère, on pourra faire en sorte que des milliers, des centaines de milliers de visiteurs viennent nous donner visite tous les ans, moi, je trouve que c'est décalé. Et pour ces différents aspects, ben, je ne voterai pas ce budget.
Merci. D'autres questions, Madame Perrin?
Comme je vous ai entendu à maintes reprises fustiger la rogne du gouvernement sur les dotations, on a voté un vœu il n'y a pas tellement longtemps, mais je dirais que c'est le minimum syndical. Aussi, je tiens à votre disposition un courrier du président de l'Association nationale des élus communistes et républicains, qui est Dominique Anneau, hein, qui demande à rencontrer le Premier ministre à Matignon le 22 janvier et notre association d'élus met en place le 22 janvier une journée de lutte. Hein. Et ils invitent... Alors, je ne vous lis pas tout le courrier, hein, je vous fais grâce, je vous le donnerai. Suite à la loi de finances, l'ANECRE avait appelé des élus, les acteurs associatifs, les agents territoriaux, les citoyens, une journée nationale de mobilisation, mairie fermée, mairie en lutte, le 22 janvier prochain. Donc ça, c'est... Si vous voulez montrer votre mécontentement, vous pouvez toujours vous rallier et vous associer.
J'en suis pas arrivé au point de définir que le Parti communiste...
C'est bien dommage.
Mais il s'agit pas de défiler, là. Hein.
Non, mais de... On le fait dans l'AMF, dans le cadre de l'AMF qui rassemble les maires de toute sensibilité politique.
Nous savons.
Mais là, ça va un petit peu plus loin et ça montre un petit peu différemment le mécontentement des élus. Sinon, monsieur le maire, moi j'ai bien écouté les différents discours lors des vœux et l'évocation du tram du 7 janvier dernier et j'ai remarqué que ça ne vous interpelle pas sur votre politique et les conséquences qu'elle peut avoir. Vous avez souligné, et je vous en sais gré, le lourd tribut payé par les forces de police, tant nationales que municipales, mais vous avez omis les personnes de l'équipe de Charlie Hebdo qui sont aussi mortes dans l'exercice de leurs fonctions et que derrière ces fonctions se pose la question de la liberté de la presse. Ce drame souligne le besoin de mettre en place des facilitateurs du vivre ensemble. C'est ensemble que l'on diffuse le message de la laïcité, c'est ensemble que l'on défend les valeurs de la République. Notre responsabilité est double, au niveau scolaire et périscolaire. Nous devons être collectivement plus exigeants sur les principes du respect de la laïcité dans nos villes. Dans le domaine de l'éducation, nous devons porter le diagnostic le plus tôt possible dès le niveau maternel et élémentaire en matière de réussite éducative, dispositif qu'il faut amplifier. Il faut aussi permettre aux enseignants d'être mieux formés pour réagir aux difficultés qu'ils rencontrent. Insistant aussi sur le dispositif de la réussite éducative, il nous faut la généraliser sur l'ensemble de la ville et non pas seulement sur les quartiers prioritaires Dans le même temps, nombre d'entre eux en sont sortis, réduisant encore les conditions de réussite. Elle doit être aussi au cœur du monde rural. Il faut libérer la parole, aussi bien des enseignants sur les réalités qu'ils rencontrent, mais aussi sur celles des habitants mettant en place des ateliers citoyens. À travers la question de l'école se pose plus largement la question de la fonction publique et de notre conception de la société, de la prise en compte de l'intérêt général pour construire les biens communs. L'idée force, sortir de la vision budgétaire et managériale assommée par les derniers gouvernements. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, 150 000 postes ont été supprimés dans la fonction publique d'État via le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux. Or, vous nous avez annoncé que vous envisagiez de mener la même politique sur la ville d'Épernay. Depuis 2010, le point d'indice servant de base à la rémunération des agents a été gelé. Les conditions de travail ont empiré. En décembre, la cure d'austérité du gouvernement Hollande visant à réduire la dette publique impactait directement les services publics. Il faut convaincre, les services publics sont à l'avant-garde de la modernité et de la démocratie, et de rappeler que pendant la crise, ils constituent un amortisseur social. Lors des drames, les fonctionnaires de police, les agents hospitaliers font bien leur travail. Ils ont le sens de l'intérêt général, séparé de celui de la rentabilité de l'entreprise. Les services publics doivent évoluer pour accompagner la transition écologique, le développement des technologies, de l'information et de la communication, l'acte 3 de la décentralisation. Or, une certaine classe politique tente de se raccrocher à un modèle républicain en limitant le débat public à une adaptation des lois du marché financier, estimant que la République serait devenue rétrograde, inadaptée à un monde globalisé. Ainsi, le rapport 2014 de France Stratégie sur la France dans les 10 ans affirme que la République relève d'un certain passéisme. Nous sommes convaincus qu'il nous faut conjuguer dans la République la liberté avec plus de fraternité, de justice sociale et de paix. Cette société ne pourra se construire qu'avec un service public garant d'une égalité qui fera reculer le constat actuel d'une société profondément fracturée où incompréhension, rancœur et haine se nouent dans des rapports sociaux marqués par la violence, l'affrontement identitaire à une nature et une fonction politique, celle de masquer l'affrontement de classe et des logiques de domination. La question qui se pose à nous est cruciale. Quelle société voulons-nous ? Comment créer une autre voie qui permette l'accès aux jeunes sans qualification autrement qu'en par des contrats aidés? Comment intégrer l'usager dans la réflexion? Autant de pistes évoquées qui feront débat le 28 janvier au Conseil économique, social et environnemental. Or, sous vos différents mandats, on peut souligner que, en fait, vous avez plutôt cassé le service public que développé. Et que vous avez aussi cassé ce qui faisait lien dans notre commune. Ainsi, on peut remarquer la disparition de la MJC Centre-Ville, la disparition de la Cigale Musclée, association qui avait un conseil d'administration d'une moyenne d'âge de 25 ans et qui avait obtenu le label Café Musique. Vous avez laissé mourir le MER, Mouvement pour l'égalité contre le racisme, qui avait su fédérer en son sein les différentes communautés en œuvrant pour l'alphabétisation, pour la rencontre des communautés entre elles, et qui tous les ans démontrait son action au travers de la fête des cultures. Vous avez municipalisé la Maison pour tous, supprimant ainsi le projet d'éducation populaire et de citoyenneté active dont elle était porteuse. Vous ne travaillez plus en lien avec les Francas ni la Ligue de l'enseignement, qui ont accompagné longtemps avec la ville sur la formation des animateurs des accueils de loisirs et sur le contenu éducatif et pédagogique qui soit porteur de valeur. La disparition du bibliobus. D'autres associations sont mises en danger. La Maison de l'Enfant, TCB. Les baisses de subventions annoncées pour le milieu associatif, sportif et culturel font l'écho de quelle stratégie? Comment sont-elles calculées et en fonction de quelle évaluation? Là encore, c'est le flou. On voit par exemple que la Fédération des promotions commerciales s'est vue attribuer la subvention de 61 000 euros. Certes, les commerces du centre-ville peuvent souffrir de la crise et d'une baisse de clientèle, mais est-ce la bonne réponse que de leur donner 61 000 euros? Ça ne rendra pas le pouvoir d'achat à nos concitoyens et s'en rend la participation de la ville à la mise en place de la patinoire et autres animations assez chères. Surtout si on se pose les questions suivantes, ces projets construisent-ils du lien social ? Rendent-ils service au public ? Dans le même temps, la jeune chambre économique ne se voit distribuer que 800 euros. L'action sociale pour notre ville. Alors là, vous venez de stigmatiser les demandeurs d'asile. Par voie de presse, vous avez stigmatisé les pauvres. Et on a reçu, enfin moi j'ai reçu des gens qui se sont vus refuser la domiciliation du CCAS après un mois et demi. Un mois et demi de demande avant de se voir refuser la domiciliation. Les conséquences de ce refus ont été lourdes de conséquences pour ces personnes. Un, elles n'ont pas pu avoir accès aux associations caritatives sparnassiennes, puisqu'elles ont dû aller se domicilier dans des villages périphériques qui n'en sont pas dotés. Ce qui a engendré, pour au moins un couple, l'internement de la dame en HP pour dépression. En termes de logement, Jean-Paul l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi pas mal de problèmes. Vous avez démantelé pas mal, nombre de logements sociaux sur la ZUP, mais il fallait l'aérer, c'est très bien. Maintenant, il n'y en a plus en construction. Et on manque à Épernay de type 3. De type 3, voilà, les gens qui veulent un type 3 n'en trouvent pas. Certes, il y en a dans le privé, mais à des prix prohibitifs, inaccessibles et souvent dans des états assez lamentables qui rendent le prix du loyer encore plus cher. Voilà. La couche populaire d'Épernay est bannie d'Épernay. On construit pour que des gens puissent investir. Tous les logements construits à Épernay s'arrachent, hein, et il y en a qui spéculent et qui investissent dessus. Alors, c'est très bien, sauf qu'il y a toute une partie de la population qui ne trouve plus sa place. J'ai même entendu à la communauté de communes, sur une réunion où on travaillait sur quel logement pour demain, j'ai entendu dire maintenant qu'on est à 45 minutes de Paris, ce qui est faux, parce que effectivement, le TGV qui arrive à Besançon est en 45 minutes de Paris. Maintenant, faites Besançon-Épernay et vous rajoutez 45 minutes, hein, qui voulait amener sur Épernay une population de bobos parisiens. Pour amener les bobos parisiens, il faut avoir une politique culturelle intéressante. Et c'est pas, je veux dire, à... C'est des gens qui demandent à sortir pratiquement tous les soirs. Donc ça demande un redimensionnement, hein, de l'offre culturelle aussi. Voilà. Par rapport à l'action du CCAS, pour le moment, on a vu passer que ponctuellement des demandes, enfin des projets. Mais moi, j'aimerais bien avoir... un bilan sur quel type de personnes on reçoit, sur quel type de dossier, quels sont les investissements faits, sur quoi, pourquoi des investissements sont reportés et passés en ligne de fonctionnement. Par rapport à la cuisine centrale, j'aurais souhaité savoir combien d'amortissements sont provisionnés, parce que là, on ne l'a que sur une année. On ne sait pas globalement combien d'amortissements sont provisionnés par rapport à la cuisine centrale. Et par rapport aux salsélites de la restauration de l'horticulture, je me demande si c'est efficient ou pas, puisqu'avant, les enfants, ils allaient à la cuisine centrale, c'est tout à côté. Pourquoi faire des frais dans un salsélite de restauration alors qu'il y a quelque chose sur place qui les accueillait jusqu'à maintenant ? Sur la restauration collective, c'est un service indispensable à la population. Et ça en fait un service public principal des collectivités territoriales de par le nombre d'usagers qui touchent. La restauration a un impact social important en termes de santé, d'éducation, de développement durable et de fonctionnement des écoles. Elle découle de choix économiques, mais avant tout politiques. Plusieurs enjeux rentrent en ligne de compte quand on parle de restauration collective. Un accès pour tous, un service public égalitaire, une restauration durable, une agriculture bio ou tout simplement raisonnée, des réseaux courts, des réseaux de proximité du monde agricole, le maintien de l'activité paysanne. Tout ça, c'est derrière le projet de restaurant scolaire. Par rapport au rythme scolaire, j'en ai un peu parlé dans le préambule, il y a en ce moment des bilans qui sont mis en place. Hein. On a déjà eu les bilans avec les parents qui ont produit, qui ont montré des dysfonctionnements, mais qui ont aussi apporté des solutions, hein, puisque c'était le travail qu'on avait à faire. On a mis un petit peu plus de temps que prévu pour le faire, mais on a abouti. Par contre, le restant des bilans, moi, je suis un peu surprise de voir que c'est en pleine journée. Tout le monde ne va pas pouvoir y assister. Je trouve ça un peu dommage. Qu'il n'y a pas de... La démocratie n'est quand même pas forcément au cœur de tout ça, quoi. On a un peu du mal de pouvoir se glisser dans les différentes propositions de rencontres. Voilà.
C'est fini. D'autres interventions. Marc Lefebvre.
Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter et de vous remercier pour la première partie de vos vœux au corps constitué. Vos propos ont été objectifs et justes. Donc, en ce qui concerne le budget 2015, donc, je vais un petit peu repartir sur quelques ratios, être un peu plus près du texte, du terrain. Je sais que vous n'aimez pas les ratios, mais je ne peux m'en passer. En ce qui concerne le potentiel fiscal, notre potentiel financier est supérieur de 30% à la moyenne des communes de la même strate. Et donc, je vous rappelle, et vous le savez, que le fonds de péréquation est calculé sur ce potentiel financier et sur le revenu par habitant. Le produit des impositions directes est supérieur de 46%, les recettes réelles de fonctionnement supérieures de 13,6%, en revanche, l'encours de la dette est supérieur de 26,2% et les dépenses d'équipement sont inférieures de 24,8%. Donc, tous ces indicateurs nous montrent que notre ville a nettement plus de rentrées que la moyenne nationale et avec davantage d'impositions et moins de dépenses d'investissement que la moyenne donc de la même strate. Alors, en ce qui concerne les dépenses, je ne prendrai que quelques exemples, mais je note un point positif. Hein. Il y a eu quelques efforts, la diminution de certaines dépenses que je demande depuis plusieurs années, et s'il y avait eu diminution depuis 4 ou 5 ans, ça nous aurait servi à nous désendetter et nous aurions ainsi davantage de capacités d'emprunt et d'investissement. Alors, je note des économies sur le compte fêtes et cérémonies, parce que j'en parlais souvent chaque année, c'était des augmentations de 100, 150, 200%, et là, ça a bien changé, je le note. Les comptes d'hiver, qui étaient très très fournis, ont diminué aussi, et puis un compte, je vous avais dit à un moment donné, il y a 2-3 conseils, l'indemnité des élus avait augmenté de 11 400 euros. Et là, j'ai vu qu'elle a baissé de 11 000, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Les augmentations prévues n'ont pas été suivies. Hein. Lorsque je vous ai dit qu'il y avait cette augmentation en 2014 de 11 400 euros, vous m'avez dit « c'est pas vrai ». Bon, vous pouvez regarder sur les chiffres, je peux vous donner la page, c'était bien vrai. Donc, ça n'a pas été mis en place. Je suppose qu'il s'est passé quelque chose. En revanche, les comptes énergie sont encore à un niveau très élevé et le compte eau et assainissement, et je me tourne vers Jonathan, hein, augmente de 1,8%, alors qu'on doit récupérer des eaux de pluie, faire des économies. Alors je ne comprends pas, il y a un décalage entre les objectifs de l'agenda 21 et la réalité budgétaire. Enfin, la dette diminue de 1 170 000 par rapport à 2014. Un de vos objectifs prioritaires, selon vos déclarations, vous ne l'avez peut-être pas prononcé ce soir, mais c'est chaque année, est d'avoir une ville plus solidaire en augmentant la subvention du CCAS. Comme chaque année, vous augmentez la subvention, puis ensuite vous récupérez une partie. Hein. Donc là, vous augmentez cette année de 79 000 euros, mais je vous rappelle qu'en 2012, vous avez récupéré 257 300 euros, en 2013, 251 400 euros, et en 2014, la dernière fois, vous avez récupéré 284 000 euros. Alors, il en est de même d'ailleurs pour la Caisse des écoles. Vous augmentez là de 22 000 euros. Et puis, on a vu en 2014, vous avez récupéré 46 700 euros. Donc, pour moi, c'est un budget solidaire en trempe-l'œil. En ce qui concerne les associations en général, donc les critères, il y en a qui sont définis, mais on aimerait que la commission analyse concrètement pourquoi un tel a 10 000 euros, pourquoi un tel a 5 000 euros, etc. Mais je ferai un petit éclairage sur simplement les associations qui ont 100 euros. Je rappelle, monsieur le maire, et vous le savez, qu'une association pour être inscrite au Palais des Fêtes ou à la Maison à la Vie des Arts, il faut déjà donner 70 euros. Et puis après, pour l'Office des sports, 40 euros. Donc, sur les 100 euros, on ponctionne déjà 110 euros. Donc, voilà, c'est un petit... Mais vous êtes bien au courant de cela, je pense, quand vous déterminez ces subventions. Et puis, donc, concernant deux associations importantes, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ces associations, mais ça me permet un petit peu d'avoir un autre éclairage ce soir. L'Office de tourisme, hein, je réitère ma position, le tourisme dépend de la communauté de communes. Alors, c'est vrai qu'on y met 410 000 euros, qu'on met des locaux à disposition. Et je rappelle qu'il y a seulement 21% des adhérents de l'Office de tourisme qui travaillent à Épernay ou qui sont à Épernay. Donc, le reste, c'est des gens de l'extérieur. La communauté de communes est en dehors de la communauté de communes. D'ailleurs, j'ai fait partie durant plusieurs années du conseil d'administration et je l'ai déjà dit. Et puis l'OGEC, tout le monde sait que c'est le financement de l'enseignement privé. Alors, 233 935. Alors, j'ai fait cette intervention il y a 2-3 ans. Et vous m'aviez dit, vous m'aviez affirmé, il y a plusieurs années, en séance, c'est M. Angers, ici présent, qui désirait que le privé soit mis à la même hauteur, financé à la même hauteur que le public. Monsieur et Angers, ça, c'est enregistré.
Monsieur Angers m'a jamais parlé de ça, vous devez comprendre.
Si.
Je ne me souviens c'est pas, enregistré. M. Angers, que vous m'ayez une fois interpellé sur ce point.
Non, quand il était conseiller municipal, les années précédentes. Donc là, vous me confirmerez, et Jean-Paul pourra dire l'augmentation du privé.
Monsieur Lefebvre, je n'ai pas souvenir que l'enseignement privé était la première préoccupation de Monsieur Angers.
Non, pas la première préoccupation.
Deuxièmement, je crois qu'on n'a jamais eu de débat.
Je mets le micro pour que ça soit bien enregistré, certainement pas.
Bon, je vais revoir tous les enregistrements. C'est pour ça, je voulais qu'il y ait une confirmation. Vous ferez rechercher il y a 2-3 ans à votre...
Il y a plus que 2-3 ans, puisque M. Angers n'était pas au conseil municipal.
Non. Mon intervention date d'il y a 2 ans ou 3 ans. Et ensuite, vous m'avez fait allusion, c'est votre ami M. Angers qui, durant la mandature précédente, avait demandé à ce que l'OGEC soit réévalué. Voilà. Et donc, ça me permet de demander...
Il vient de vous répondre.
Ça me permet de demander à comment est établie cette subvention. On me dit que c'est par rapport au nombre d'élèves. Alors, un élève est financé à quel niveau, combien est-il d'élèves dans l'enseignement privé? Et ça, c'est un détail que vous pourrez nous donner ou que vos services pourront me fournir. Alors, en ce qui concerne les investissements, ils sont en chute. Au compte 2152, la voirie, on diminue de 22%. En installation matérielle outillage technique, on passe de 1,7 million à 1,3 million, diminution de 32%. Au total, toutes les dépenses d'équipement diminuent de 11,7%. En ce qui concerne les recettes, je serai plus bref, mais ce qui m'interpelle cette fois-ci, c'est les taxes foncières et d'habitation sont en augmentation de 0,9% à cause de la revalorisation des bases, vous l'avez dit. Mais malgré cela, la somme inscrite cette année en recettes diminue de 1,4%, c'est-à-dire de 274 900 euros. Donc, pourquoi cette diminution? Est-ce que vous tenez compte d'un effondrement de la démographie? Je ne sais pas. Mais c'est la première fois que ces taxes diminuent, alors qu'il y a toujours une augmentation des bases d'imposition. Par contre, en revanche, la taxe sur la consommation d'électricité et les droits de stationnement ne cessent d'augmenter. Alors, j'y reviens un peu plus rapidement parce que ça a déjà été soulevé, mais la grande question à résoudre, c'est comment pallier la chute démographique. Donc la ville a perdu exactement 6147 habitants en 37 ans, soit plus de 20% de sa population, alors que dans les années 70, la majorité municipale auquel vous étiez attaché ou à laquelle vous avez succédé prévoyait que la ville atteindrait 50 000 habitants à l'horizon 2000. Donc, les années précédentes, vous me rétorquiez, et ça a déjà été dit, que Reims, Châlons, la Marne perdaient aussi des habitants. Ce n'est plus vrai, puisque Reims a gagné 1143 habitants, la Marne et Châlons, 0,3 habitants. Donc, en ce qui concerne, dans le budget, à la page 1, je crois que vous marquez que la population est toujours de 24 600 habitants. Vous n'avez pas tenu du dernier chiffre de l'INSEE. Par contre, vous avez tenu de l'augmentation des résidences secondaires. Alors, des solutions, elles ont déjà été invoquées, je vous rappelle, pour pallier cette chute démographique. Il faut développer l'économie locale, créer des emplois. C'est pas si facile que ça, je le sais. Vous misez beaucoup sur le tourisme, ça a été déjà dit. C'est bien, mais c'est insuffisant. Vous êtes d'accord que l'économie est primordiale et je ne regrette que vous n'ayez pas pris encore le taureau par les cornes. La commission économie de la communauté de communes ne s'est réunie qu'une seule fois depuis le mois de mars. Elle n'a parlé que tourisme. Je vous invite donc dans ce domaine à faire preuve d'imagination et à stimuler votre vice-président, qui n'est pas à côté de vous malheureusement ce soir, chargé de cette commission. Et une question, la commune ou la communauté de communes était-elle présente au CIMI, qui s'est déroulé du 3 au 5 décembre à Paris? C'est le salon de l'immobilier de l'entreprise, le rendez-vous annuel des investisseurs, des bâtisseurs et des aménagements de zones d'activité du territoire, puisque nous avons beaucoup de lots à vendre au niveau de la communauté de communes. Alors, ce que je vous demande en général, faire davantage d'économies pour investir et rembourser la dette, maintenir un service public de qualité, ne pas l'amputer comme vous l'avez fait en 2014 avec la suppression du bibliobus, ne pas saigner le service public en supprimant des postes au prétexte que les dotations diminuent. Alors, en 2015, vous avez prévu 445 postes au budget. Et en 2014, est-ce que c'était une erreur? Parce que sur nos documents du budget, c'était 438. Il n'y a pas eu de création de postes comme ça. Qu'en est-il? Est-ce que c'était une erreur, un mauvais report? J'ai les documents ici, parce qu'on dit souvent que mes chiffres sont faux, mais je peux vous les montrer. Développer la mutualisation pour faire des économies, mais stopper l'externalisation proche de la privatisation, se rapprocher davantage de Reims et de Châlons, ainsi que des villes du G10. Je sais que vous y êtes attachés, mais on attend des choses. Établir une programmation des grands travaux pour les 5 années à venir, avec des crédits plus importants pour la réfection de la voirie. Travailler différemment dans les commissions. Actuellement, les commissions n'étudient que les délibérations qui vont être vues la semaine d'après en conseil municipal. Il n'y a pas ni réflexion, ni proposition. Et puis, j'ai appris dans votre discours de vendredi dernier que le groupe de pilotage sur le musée s'était réunie. Est-ce que l'opposition fait partie? Et donc c'est le musée, c'est quand même le projet majeur de la mandature, et si on pouvait y participer. Autre exemple, je vois la commission animation et attractivité. On a posé quelques questions, notamment sur la subvention pour TCB. On nous a pas parlé, donc c'était déjà dans les tuyaux alors qu'on n'a pas pu nous répondre. Et puis une autre question qu'on n'a pas étudiée, par exemple le lendemain ou deux jours après en CAG, on a vu la création d'un poste au musée. On aurait pu un peu en parler et nous dire quel était le but, les fonctions, etc. Pour terminer, vous respirerez, je vous réitère trois propositions que j'ai faites déjà. Vous aviez pour l'une été un peu près d'accord, mais je n'ai pas vu les effets. C'était généraliser la collecte à domicile des encombrants qui se fait sur Bernan, et notamment pour les personnes âgées et les personnes seules. Supprimer les subventions exceptionnelles, trop nombreuses, sauf dans le cas d'organisation de manifestations. Et puis enfin, je regarde notre ami Jonathan, créer une aide aux travaux d'isolation pour inciter aux économies d'énergie. Voilà. Donc en conclusion, je pense que ce budget est un budget intermédiaire où vous n'avez pas défini de véritable stratégie, où vous avez raboté de ci, de là quelques dépenses excessives pour arriver à un équilibre budgétaire annuel sans vision à moyen et long terme. Voilà. J'ai deux, trois petites questions. Est-ce que je les pose tout de suite ?
Allez-y. Dans la foulée.
Oui. Donc, le compte 24 produit des sessions d'immobilisation. C'est à la page 20. Les deux sessions qui ont été... ce que nous avons... ça, je ne vais pas la poser. Les immobilisations, oui. Qui sont des rentrées pour 2015, vous les avez chiffrées à combien ? À ce que nous avons déjà décidé pour 97 000 euros concernant les ventes de terrain la dernière fois et concernant la vente d'une maison là aux petits Chinois. Donc cela est bien comptabilisé dans les immobilisations. Et y a-t-il d'autres ventes prévues en 2015 ? Et puis... l'autre question, je vous l'avais posée, c'était sur les effectifs, là, la différence entre 438 dans le budget 2014 et 445 dans le budget 2015. Et puis, une autre question que j'avais, vous l'avez abordée, le dossier Épernay Pays d'Histoire. En ce qui concerne la prise d'otage, vous pouvez un peu peut-être vous expliquer davantage, parce que moi, j'avais un autre son de cloche qui était que vous aviez embauché un chargé de mission et que vous vouliez faire financer par les autres ce chargé de mission. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est ce que j'entends dire, alors qu'il n'était pas au courant du projet initial. Donc là, je ne m'avance pas, c'est ce qui m'a été relaté.
Très bien. Qui prend encore la parole, Monsieur Durançois ?
Je vais faire court.
Comme il y a certaines questions qui vont revenir, je préfère que tout le monde parle, parce que sinon, après, on revient toujours sur les mêmes questions.
Je vais faire court avant qu'on soit tous congelés. Je vois au moins qu'il y a déjà eu des restrictions au niveau du chauffage. Donc aujourd'hui, nous sommes tous conscients des difficultés que rencontrent les collectivités dans l'établissement de leur budget. Cependant, certains accusent le coup avec surprise, alors que d'autres avaient prévenu depuis bien longtemps que ce marasme arriverait à force d'incompétence, de faiblesse et de laxisme. La soumission de notre pays au dogme de l'Europe nous touche de plein fouet aujourd'hui. Cela ne sert à rien de nier la vérité. Le budget que vous nous proposez aujourd'hui est de premier abord attractif et volontaire. Par ces temps de vache maigre, la couverture fait envie. Cependant, l'effort n'est pas là. Ce n'est pas suffisant et surtout, la répartition n'est pas présente au rendez-vous. Nous aurions souhaité une baisse plus importante, premièrement sur le budget des subventions de fonctionnement aux associations. Certes, ces subventions sont utiles pour la société, mais par ces temps difficiles, elles ne sont pas toutes nécessaires au vu des montants gracieusement distribués pour certaines et nos administrés attendre d'autres priorités. Vous nous avez rappelé tout à l'heure à ce sujet vos propos au sujet du club de prévention dans l'Union du 21 décembre, où il nous aurait relaté que 80% des places sont occupées par des demandeurs d'asile déboutés, donc des clandestins. Vos paroles étaient les suivantes. On sent naître un agacement de la population. Certains ont du mal à joindre les deux bouts et voient toute une population illégale bénéficier de gratuités diverses. Ça ne peut plus durer. Félicitations, monsieur le maire. Vous avez enfin ouvert un œil. Le plus dur reste à faire, ouvrir le deuxième et agir. La distribution de l'argent public à tout va doit cesser, et surtout pour des cas comme ça. Les Sparnassiens n'ont d'autre choix que de se serrer la ceinture. À nous, élus, de leur montrer le bon exemple. Un geste symbolique et encourageant aurait eu un écho fort dans la cité. Baisser les indemnités du conseil municipal afin d'être solidaire de nos administrés. La solidarité ne doit pas se cantonner uniquement au défilé d'Union nationale d'un jour. Vous faites la promotion des services mutualisés, des groupements d'achat pour notre commune, mais j'ai du mal à m'expliquer, par exemple, une augmentation budgétaire des fournitures administratives qui, selon toute logique, devrait aller à la baisse. Bref, un budget promotionnel, une vraie publicité, mais au final, rien ne change. Une déclinaison locale de ce qui se fait au national. Les élus que nous sommes ne voteront pas ce budget que nous jugeons inacceptable pour les Sparnassiens, à qui on demande de plus en plus avec de moins en moins. La volonté d'agir de la majorité n'est pas au rendez-vous. Merci.
Merci pour votre intervention. Je vais essayer de répondre à toutes les questions qui ont été soulevées. Elles ont été plus nombreuses cette année que les autres années. Et je m'en félicite parce que ça témoigne en tout cas d'un investissement des uns et des autres dans l'examen de ce budget. Alors, je vais commencer par les questions évoquées par M. Angers. Vous avez rappelé les paroles d'une comptine. Je pourrais vous renvoyer celle d'une chanson. Si je vous écoute, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. On n'est pas dans le même registre, j'ai bien compris. Mais je note que les termes que vous martelez, c'est rétractation, déclin, catastrophe climatique. Je ne trouve pas beaucoup d'espoir dans vos propos. De ce point de vue, je peux partager certaines de vos inquiétudes, mais je ne fais évidemment pas le même constat que vous. Vous nous reprochez d'accuser l'État d'être responsable de la situation. Je maintiens mes accusations, mais vous aurez noté que mes accusations portent sur l'État et pas sur le gouvernement. À aucun moment j'ai prononcé le mot gouvernement parce que le désengagement de l'État, il a commencé bien avant l'arrivée de ce gouvernement. Et si vous aviez été au conseil municipal avant les élections, je pense que Marc Lefebvre pourrait en témoigner. J'ai dénoncé notamment la réforme de la taxe professionnelle que je trouvais stupide et dangereuse pour les collectivités, et elle a produit les résultats qu'on sait, à savoir qu'aujourd'hui les collectivités voient leur marge de manœuvre s'effondrer. On a réduit le pouvoir fiscal des collectivités, la région, le département. La région aujourd'hui dépend des dotations de l'État à 90 ou 95%. Nous, c'est presque pareil. On n'a plus aucun pouvoir de taux sur les entreprises. Et ce qui a fait à une époque le dynamisme de nos finances publiques, de nos finances locales, à savoir effectivement des effets de base qui progressaient en fonction d'un développement économique pour lequel on était moteur, ben aujourd'hui se retourne contre les collectivités qui ont beaucoup misé sur le développement économique, puisqu'elles ont, consacré une grande partie de leur aménagement territorial aux zones d'activité. Je pense à la zone Val-Champagne, je pense à la zone Terre Rouge, je pense à la zone des Forges, qui ont été créées depuis 15 ou 20 ans, qui sont toutes complètes d'ailleurs. Et finalement, aujourd'hui, ceux qui ont misé à une époque sur le développement économique sont pénalisés, puisque nous ne touchons plus les sommes que nous touchions avant. En tout cas, la dynamique économique qui générait des recettes en retour ne génère plus de recettes, pour la simple et bonne raison que les dotations sont aujourd'hui gelées, et c'est tout à fait regrettable. Donc, j'ai pas prononcé le mot de François Hollande, j'ai pas prononcé le mot de gouvernement. Pour moi, le désengagement de l'État, il est de la responsabilité de ce gouvernement, et il est presque autant, voire autant la responsabilité du gouvernement précédent. On pourrait même remonter plus loin encore, lorsqu'il y avait eu la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle du temps de Strauss-Kahn. Donc il y a eu des décisions prises par l'État qui ont affaibli les pouvoirs locaux. Je rappelle quand même que aujourd'hui, cette année, pour la première fois, le budget des collectivités locales globales va baisser, alors que de son côté, l'État continue d'augmenter son budget et continue d'augmenter le budget de la sécurité sociale. Donc les efforts, ce sont bien les collectivités qui vont les faire le plus, alors que c'est évidemment l'État qui aurait besoin d'en faire le plus. Mais là, je pense que l'incapacité du gouvernement, des gouvernements, à stopper les dépenses de l'État depuis un certain nombre d'années, s'est traduit par une situation financière compliquée, par une situation de l'endettement très lourde. Et effectivement, je vous rejoins, il y a eu une augmentation de l'endettement importante au cours du mandat présidentiel précédent, c'est incontestable. Je ne passe d'ailleurs pas ni à droite ni à gauche comme étant un fan de l'ancien président de la République, vous le savez bien. Mais, si vous voulez, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que ce sont les collectivités territoriales, toutes tendances confondues, de droite, du gauche et du centre, qui vont payer pour un État qui n'a pas été à même de faire les réformes qu'il aurait dû faire bien avant. Et de ce point de vue, je maintiens qu'effectivement, si la situation est compliquée aujourd'hui, c'est essentiellement à cause de l'État, mais pas l'État d'aujourd'hui, pas uniquement l'État d'aujourd'hui. C'est malheureusement une attitude qu'a adoptée l'État vis-à-vis des collectivités depuis bien longtemps. Et je pense qu'effectivement, l'État, depuis quelques années, trahit un peu l'esprit de la décentralisation qu'avaient voulu François Mitterrand et Gaston Defferre, auquel à l'époque, la droite de l'époque avait combattu à tort. Elle l'a regretté. Elle a admis ensuite qu'effectivement, cette réforme avait fait beaucoup de bien au pays. Mais aujourd'hui, en privant les acteurs décentralisés de moyens d'action, vous savez comme moi, je l'ai indiqué tout à l'heure, je ne vais pas reprendre l'intégralité de mon propos, mais qu'en obligeant les collectivités à réduire leur investissement, on tue l'un des principaux moteurs de la croissance, qu'est la commande publique. Et la commande publique, elle est le fait des collectivités locales, elle n'est pas le fait de l'État. Donc je ne m'attarde pas sur le sujet, mais je tenais quand même à faire apporter cette précision. Alors le deuxième couplet de votre comptine, c'est la baisse des habitants, à savoir que la baisse des habitants serait responsable de la situation budgétaire de la ville. Je ne vois pas en quoi, très sincèrement. Je pense que c'est commode, effectivement, de reprendre à votre compte les résultats statistiques qui sont sortis au début de cette bonne guerre, en début d'année, mais je ne vois pas vraiment le lien avec le budget. À vous entendre, Épernay, c'est le mauvais élève de la classe, parce que cette année, effectivement, la baisse enregistrée à Épernay n'est pas enregistrée ailleurs. C'est vrai, je ne le conteste pas, mais je pense qu'il faut être... il faut savoir analyser les choses avec un peu de recul, et je pense qu'il est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions définitives de ces chiffres. Bon, il y a 4 ans, on avait les chiffres qui augmentaient à Épernay, puis ils ont baissé, ils diminuent avant, et je pense qu'il faut examiner ça dans la durée, et je l'espère, pour constater une augmentation de la population en Champagne-Ardenne, ce qui n'est pas forcément acquis dans la durée. Maintenant, il y a toujours une deuxième explication que j'ai donnée à la baisse démographique d'Épernay. C'est tout simplement la situation géographique d'Épernay. Épernay est entouré de coteaux viticoles à l'est et à l'ouest. Au sud, on a la commune de Pierry qui vient fermer toute perspective de développement. Et au nord, on a une plaine inondable. Vous savez peut-être que sur 2270 hectares de la commune d'Épernay, 28% sont urbanisables. Tout le reste... c'est-à-dire, grosso modo, 72% sont consacrés ou à la nature, ou à l'agriculture, en l'occurrence la viticulture, ou à la forêt, ou à l'eau, puisque l'eau représente 25 hectares, de la surface totale d'Épernay. Donc, on a un territoire qui est extrêmement restreint, et de ce fait, quasiment aucune possibilité d'extension, et aujourd'hui, les possibilités d'urbanisation d'Épernay sont, depuis un certain nombre d'années, sont limités à leur plus simple expression, puisque de toute façon, je ne vois pas aujourd'hui où il y a 5 hectares à Épernay où on peut demain développer ou de l'activité ou du logement, puisque de toute façon, notre territoire urbain, il est quasiment saturé, sauf à arracher de la vigne
et vous connaissez les contraintes, et vous connaissant, je suis persuadé que ce n'est pas votre préconisation, ou aller construire dans la forêt, ce qui est impossible compte tenu de la ZNIEF, et que ce serait criminel que de porter atteinte à un massif forestier de cette qualité, ou à convaincre l'État de considérer que la plaine d'Aï n'est plus inondable, ce qu'il n'est pas là de faire. Donc, si vous voulez, très objectivement, parmi les explications, il y a celle-ci. Et si on regarde la manière dont les autres agglomérations se sont développées depuis un certain nombre d'années, sans pour autant d'ailleurs en tirer un grand bénéfice sur le plan de la population, Reims consomme 30 hectares de plus chaque année. Chalon était sur un rythme presque plus important, mais les chiffres qu'on m'a donnés concernaient aussi bien Chalon que l'agglomération, c'est-à-dire il y a la zone de Récy, il y a eu la zone des Escarnotières, ils ont consommé de l'espace par centaines d'hectares. Nous, on peut pas consommer d'espace, parce qu'on n'en a plus d'espace. Donc il n'est pas anormal de considérer que Épernay ayant plus de terrain disponible, la seule voie pour Épernay, la seule voie d'avenir, c'est de se reconstruire sur elle-même. Ça veut dire notamment les ateliers SNCF, hein, puisque cette activité disparaît très prochainement, en tout cas se recentre sur le technocentre situé de l'autre côté du pont et de l'avenue Joffre. Mais ce qui rend du coup la disponibilité foncière beaucoup plus coûteuse qu'ailleurs, et il suffit de comparer les prix moyens du mètre carré à Épernay avec les prix moyens du mètre carré à Mardeuil, à Plivaux, à Oiry, à Avize, pour constater qu'effectivement, pour un jeune couple qui, après avoir vécu au début comme locataire, souvent dans un appartement, qui aspire à devenir propriétaire de sa maison, ce qui est tout à fait légitime, il n'y a pas d'offre à Épernay, il n'y a pas de lotissement à Épernay, et il n'y a pas possibilité d'en faire, en tout cas pas dans l'immédiat, c'est très compliqué. Qui plus est, quand on intègre les données des viticole et les glissements de terrain et puis la gestion d'hydraulique viticole. Donc on espère pouvoir aboutir à un projet sur les platées où on a des réserves foncières importantes, mais ce sera un projet de toute façon de dimension extrêmement modeste, alors que Moussy vient de commercialiser 30 lots pour construire des maisons en quelques semaines de temps. Parce que évidemment, on est aux portes d'Épernay. Le prix du foncier n'est pas le même qu'Épernay, les contraintes ne sont pas les mêmes, vous êtes sur du terrain plat, alors qu'à Épernay, le terrain plat n'existe pas ou n'existe plus. Évidemment, si vous raisonnez à l'échelle des autres agglomérations, tout autour de Reims, c'est plat, c'est libre, c'est de l'agriculture, le prix du mètre carré, il est dérisoire. Tout autour de Chalon, c'est pareil, et tout autour d'Épernay, c'est de la vigne à 1 million d'euros l'hectare. Donc, si vous voulez, il est clair qu'on ne peut pas espérer avoir les mêmes ambitions que les autres dans ces circonstances-là. Et je pense que si on est objectif dans l'examen de la situation... Pardon ?
Au-dessus de Fort-Chabrol,
oui. Oui, mais il y a des accès qui sont assez difficiles, puisque si on voulait effectivement urbaniser l'espace agricole qui existe au-dessus du petit bois, là, qui est entre Mardeuil et Épernay, il faudrait créer des voies nouvelles, sauf à imposer aux habitants du quartier Fort-Chabrol une transition par ce quartier, ce qui serait très compliqué compte tenu de la pente, compte tenu de l'organisation de ce quartier qui a été conçu en cul-de-sac et pas pour être un quartier de transit. Donc il faudrait passer à travers le bois ou plus simple, peut-être à travers Mardeuil et revenir sur Épernay ensuite, ce qui n'est pas facile, mais ça peut faire partie des projets d'évolution dans les années qui viennent. Quoi qu'il en soit, et c'est à mon sens incontournable, quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs et quand on regarde ce qui s'est passé autour de nous, parce que si vous regardez les chiffres du recensement qui sont sortis en début d'année, toutes les communes de la communauté de communes qui augmentent, je peux les citer, Mardeuil, Avize, Chouilly, Plivaux, Moussy, c'est toutes les communes qui, dans les deux ou trois ans, qui viennent de sortir des lotissements qui vont entre 30 lots, pour les plus petits d'entre eux, à 70 ou 80 lots. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils ont cet avantage, ils bordent Épernay, ils sont près d'Épernay, et ils savent qu'un certain nombre d'habitants d'Épernay, qu'un certain nombre de salariés d'entreprises d'Épernay cherchent des terrains pour construire leur maison, ils font des offres en la matière, ils sont parfaitement légitimes en le faisant, et de ce fait, ils privent Épernay d'une partie de cette population, de classe moyenne, je retiens le terme parce que c'est vrai, ce sont des gens qui sont dans le cadre de leur parcours résidentiel, qui aspirent à devenir propriétaires et qui deviennent propriétaires autour d'Épernay parce qu'ils ne peuvent pas le devenir à l'intérieur d'Épernay. Et ça explique à mon sens très largement
l'évolution démographique défavorable de notre ville. Je rappelle quand même que notre ville perd des habitants depuis 1990, ça fait 24 ans, hein, puisque jusqu'en 90, elle en gagnait, à partir de 90, elle a commencé à en perdre. Donc ce n'est pas une évolution récente, mais simplement, quand on regarde ce qui a été aménagé plus exactement, ou urbanisé avant, entre 1958 et 1967, on a consommé 85 hectares de terrain. Entre 67 et 90, 120 hectares de terrain. Depuis 90, 28 hectares. Donc on est arrivé au bout du bout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, à l'exception peut-être du terrain qui se situe au-dessus du collège Côte-le-Gris, tout le reste est urbanisé.
5 hectares,
je crois. Oui, mais 5 hectares, c'est rien par rapport à ce qu'il faudrait. Hein. 5 hectares, c'est le lotissement d'une petite commune à côté d'Épernay. Peut-être que ce sera fait, et ce sera à faire, mais en tout état de cause, une fois que ces 5 hectares sont consommés, il n'y a plus rien derrière. Ça veut dire que la seule perspective que nous avons, c'est de reconstruire la ville sur elle-même, ce qui est compliqué, ce qui est cher, et ce qui fait qu'on ne peut pas libérer du terrain pour des lotissements de type ce qui s'est fait à Belnoux il y a 30 ans, ce qui était sûrement une bonne chose, qui était d'ailleurs fortement consommateur d'espace, mais aujourd'hui tout ça n'est pas possible, et je pense que quand on fait l'analyse objective des choses, il faut intégrer que c'est un handicap pour Épernay et que de toute façon, on ne peut pas faire de miracle et ça n'est pas une question de politique comme vous l'indiquez en disant ce sont vos choix politiques qui nous ont mis dans cette situation, mes choix politiques ou ceux de mon prédécesseur. C'est vrai que les choix politiques qui ont été faits jusqu'il y a une dizaine d'années ont privilégié beaucoup le développement économique et si aujourd'hui le bassin d'Épernay est celui qui est sans doute le plus dynamique de la Champagne-Ardenne avec Reims, c'est aussi parce qu'on a fait pendant longtemps des choix économiques importants. Regardez toutes les zones qui sont autour d'Épernay, les plus anciennes, la zone industrielle nord, les plus anciennes, je pense à la zone de Wari, mais regardez ce qui s'est fait c'est depuis 15 ans, à savoir la zone des Forges, la zone de Terre Rouge et la zone Val-Champagne, elles ont été remplies en un temps quasiment record. Sauf qu'aujourd'hui, si d'ailleurs le prolongement naturel de ces zones, c'est la zone Pierry-Sud Développement, qui s'appelle bien Pierry-Sud Développement, parce que de l'autre côté de la route, on est à Pierry. Si on avait été à Épernay, il va de soi que ces zones auraient pu continuer à se développer. Alors vous évoquez donc derrière, vous nous reprochez de ne pas avoir une politique suffisamment audacieuse en matière économique, sauf que je peux vous contester vos arguments sur ce point, parce qu'Épernay est un bassin industriel de premier plan. Le préfet d'Artout, qui n'est pas un militant UDI, encore moins un militant UMP, quand il vient dans cette région, dit partout que c'est à ses yeux le bassin d'emploi le plus performant en matière d'emploi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inquiétudes et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des situations difficiles, ça et là, j'en conviens parfaitement. Mais on a un bassin économique qui se porte incontestablement bien que la plupart des bassins économiques de la région. Et là aussi, si vous êtes objectif, vous le reconnaîtrez. Alors, vous évoquez maintenant les perspectives qu'offre Berge-de-Marne. Et là, je suis assez stupéfait de votre argumentation. Vous nous dites, Berge-de-Marne, c'est au bord de la voie ferrée, il faut développer les zones d'activité, puisque les zones d'activité bénéficieront du chemin de fer. Mais il n'y a plus que vous qui croyez au ferré, au fret. Il n'y a plus que vous, monsieur Orger, il n'y a plus personne ne croit au fret ferroviaire en France. Par conception théorique. C'est vrai que c'est séduisant de voir toutes les entreprises envoyer leur chargement par le fret. Mais vous connaissez la situation de la SNCF fret. Elle est catastrophique parce que j'ai beaucoup de respect pour la SNCF, mais c'est le boulet de la SNCF, c'est bien le fret. Parce que la SNCF n'est plus à même aujourd'hui, au regard des contraintes logistiques des entreprises, de faire du juste à temps. De délivrer les entreprises, et je connais pour ainsi dire plus une entreprise, même celles qui ont des branchements SNCF ont demandé à les supprimer ou n'en veulent plus. Parce qu'autrefois, elles expédiaient des remorques de camions, de l'outillage, des billes de bois, enfin des troncs d'arbres complets. Plus personne aujourd'hui n'utilise ce mode de circulation parce que, en France, le fret ferroviaire, je ne dis pas que c'est de la faute uniquement de la SNCF, mais le fret ferroviaire, il est désavantagé par rapport au trafic routier. Je vous renvoie
à la suppression de l'écotaxe, qui est une connerie monstrueuse, pardonnez-moi de le dire. On n'aurait jamais dû supprimer l'écotaxe. C'est les autres charges d'entreprise qu'il fallait baisser. Mais l'écotaxe, elle permettait au moins de financer les infrastructures de type infrastructure ferroviaire. Bon, le gouvernement a choisi par facilité d'abroger l'écotaxe qui avait été adoptée à l'unanimité du Parlement dans un moment de clairvoyance, sans doute. C'était une belle unanimité. Il fallait une écotaxe. Mais, et je pense que ça a été une erreur historique que de refuser cette écotaxe. Simplement, je comprends les entreprises qui disaient l'écotaxe, en plus de tout ce que nous avons à payer, c'est de trop. Et il fallait sans doute baisser d'autres charges dans les entreprises que celles liées à l'écotaxe, parce que l'écotaxe, elle existe, vous le savez, aussi bien que moi, voire mieux que moi, dans beaucoup de pays européens. Les transporteurs français la payent quand ils traversent l'Allemagne. Je ne vois pas pourquoi les transporteurs allemands ne paieraient pas une écotaxe en France quand ils traversent la France. Donc, et c'est ça qui aurait permis sans doute de rendre le fret plus compétitif et d'une manière générale le transport ferré plus compétitif. Simplement, les choix qui ont été faits sont différents. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une entreprise du bassin qui nous demande un embranchement SNCF. Je le regrette parce qu'effectivement, ce serait séduisant sur le principe de voir les entreprises mettre leurs expéditions sur des trains, mais ça n'existe plus malheureusement parce que, et là c'est un débat national, on a tout fait pour plomber le transport ferré en France depuis bien longtemps. Ça date de génération, hein, c'est pas...
Ça date au moins d'une trentaine
d'années. Ah oui, mais ça c'est très ancien, c'est très ancien.
Mais ça s'est confirmé, et ça se confirme, y compris quand on voit l'ouverture du transport corps,
qui
est mise en place au cadre de la loi Macron.
Alors,
malheureusement, les trains arrivent à l'heure.
Alors, je poursuis parce que bon, vous nous dites il faut que Berge de Marne soit consacrée au développement économique. Il le sera en partie, puisqu'il y a des entreprises qui bordent ces terrains qui, d'ores et déjà, nous ont fait savoir qu'elles souhaitaient pouvoir s'étendre. Donc, elles pourront s'étendre sur ce terrain. D'autres entreprises, je pense notamment dans le secteur des services, qui est un secteur à développer, pourront sûrement s'étendre sur ce quartier. Et en même temps, parce qu'on a besoin aussi d'offrir d'autres perspectives en matière d'habitat, il y aura aussi très certainement de l'habitat sur ce quartier. Vous dénoncez ensuite la démarche que nous menons pour faire d'Épernay une station de tourisme et vous résumez ça à une volonté de rendre l'emploi précaire. Bon, il y aura sûrement des facilités en termes d'emploi saisonnier et c'est un atout pour la notion de station de tourisme. Mais notre ambition, elle va bien au-delà. Vous savez comme moi que, et si on devait faire la comptabilisation très précise des emplois qui ont été créés depuis 5 ou 10 ans, on verrait que le premier secteur créateur d'emplois à Épernay depuis 10 ans, c'est le tourisme, directement ou indirectement. Et on peut se féliciter que les démarches qui ont été engagées, démarches à laquelle la ville n'est pas étrangère, sur l'aménagement de l'avenue de Champagne notamment, nous ont permis de nourrir l'ambition d'être demain inscrit à l'UNESCO, avec des retombées très concrètes que vous percevrez dès les prochains mois, j'en suis sûr, puisque nous avons aujourd'hui un certain nombre de contacts que je ne peux pas forcément révéler, compte tenu du fait que les projets ne sont pas signés, qui devraient nous permettre de créer plus d'emplois encore dans le domaine touristique et de l'emploi pérenne, pas que de l'emploi saisonnier. Et je pense qu'on pourra, à ce moment-là, en rediscuter. Vous enchaînez après sur les impôts en disant que c'est le niveau des impôts qui est responsable du fait que les gens quittent Épernay. Absolument pas. Vous seriez très déçu de voir le nombre de courriers que je reçois de gens qui se plaignent du niveau des impôts. Il y a des gens parfois qui ont des difficultés et qui sollicitent la collectivité pour qu'elle-même intervienne auprès des services d'impôts pour pouvoir étaler leur niveau d'imposition ou recalculer leur niveau d'imposition lorsque les erreurs, et ça arrive, ont pu se glisser. Mais très objectivement aujourd'hui, le problème du coût du foncier est bien plus important que le problème des impôts parce que de toute façon, les gens qui choisissent d'aller vivre à Plivaux, et encore une fois, je ne leur jette pas la pierre. Ils vont payer en essence, peut-être moins maintenant, mais ils vont payer en essence ce que les autres payent en impôts. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une économie pour le budget familial. Et en plus, non seulement ils vont payer en essence ce que les autres payent en impôts, mais en plus, ils vont ensuite faire des pieds et des mains pour essayer de bénéficier des services à la population qu'offre la ville. Et si la ville a un niveau d'imposition incontestablement plus élevé que les communes qui l'entourent, c'est aussi parce que vous le savez pertinemment. En tant que ville-centre, elle supporte des charges de centralité extrêmement importantes et elle supporte des équipements qui profitent à tout le bassin.
Ça vaut pour la communauté de communes. Vous savez qu'à Buléo, équipement financé par la communauté de communes et dans son fonctionnement quotidien, plus d'un nageur sur deux vient de l'extérieur de la communauté de communes. Au théâtre, j'ai jamais fait de sondage à l'entrée du théâtre pour savoir quelles étaient les personnes qui venaient au théâtre, mais plus de 50% viennent de l'extérieur d'Épernay. Et la ville d'Épernay supporte comme ça toute une série d'équipements, pour évoquer les médiathèques, etc., qui, dans leur fréquentation, dans leurs abonnés, sont des gens qui viennent de l'extérieur d'Épernay, parce qu'ils viennent bénéficier d'une offre culturelle, sportive, ludique, qui n'existe pas à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle nos taux d'imposition sont plus élevés que les communes qui nous entourent. Et j'allais dire, mais elles sont tout à fait comparables à celles qu'on trouve à Reims ou à Châlons, puisque si on englobe la totalité des impôts, et notamment la taxe sur les ordures ménagères que nous n'avons pas chez nous, on se rend compte que le niveau d'imposition est tout à fait comparable ailleurs. Donc ce n'est pas une explication, à mon sens, qui est valable.
46% supérieur à la moyenne d'administration, c'est dans le ratio de la page 1, monsieur le maire.
Non, je vais venir ensuite sur vos ratios et sur vos explications. Je termine, monsieur Lefebvre, je termine simplement sur la déclaration de conclusion de monsieur... Monsieur Angers, qui dit, enfin, et je rejoins en cela le propos de Madame Perrin, qui dit qu'en clair, on a oublié le social, que votre aspiration est humaniste, sous-entendu la nôtre ne l'est pas, et que notre budget est alimenté pour servir les mêmes intérêts. Et j'aimerais savoir quels sont les intérêts que vous énoncez derrière ce mot, parce que j'ai pas le sentiment qu'on sert des intérêts particuliers quand on agit au service de la ville. On agit au service de tous, et je pense que l'implication qu'on a eue dans des dossiers aussi importants que le dossier de renouvellement de quartier de Bernon, qui, le moins qu'on puisse dire, n'a pas servi les populations les plus aisées d'Épernay, démontre quand même, me semble-t-il, qu'on a le souci, notre équipe municipale, les précédentes, celle de mon prédécesseur, qu'on a toujours eu le souci à Épernay de maintenir un lien social et d'apporter une politique sociale aux habitants d'Épernay, quel que soit d'ailleurs leur âge, puisque le social, ce n'est pas qu'une question de richesse, c'est aussi une question d'âge pour les plus âgés, de soutien à la petite enfance pour les plus jeunes. Et je pense que de ce point de vue, on pourrait, sans chercher à prolonger trop longtemps notre débat, vous annoncer de très nombreuses évolutions. Un chiffre quand même. Sur le social, on a 31% des logements d'Épernay qui sont des logements sociaux, ce qui n'est quand même pas le signe d'une ville égoïste ou d'une ville qui privilégie uniquement les intérêts des plus riches. Madame Perrin, je réponds à un certain nombre de vos questions. Il y en a certaines d'entre elles, j'y ai déjà répondu à travers les réponses que j'ai faites à Monsieur Angers. Bon, sur la journée de lutte du 22 janvier, je serai de tout cœur avec vous, mais je serai pas aux côtés du Parti communiste pour défiler, parce que je pense que c'est dans le cadre de l'AMF qu'on est plus fort, même si le rôle de chacune des associations d'élus a son rôle à jouer. Vous m'avez reproché de ne pas souligner la mort des dessinateurs de Charlie Hebdo. Je pense que je me suis à plusieurs reprises exprimé à travers des communiqués dès le mercredi après-midi que ce drame était épouvantable et qu'évidemment, cette atteinte à la liberté d'expression... était, j'allais dire, inacceptable. Et je suis républicain comme vous l'êtes, et je ne pense pas avoir de leçons à recevoir de vous sur mon engagement républicain. Il est sincère. Mon engagement laïque, il est sincère, parce que je pense qu'effectivement, la laïcité est la plus merveilleuse des libertés. Elle permet à chacun de croire ou de ne pas croire en qui il veut. Et je trouve que cette laïcité mériterait pratiquement d'être également au fronton de nos mairies. Bon, c'est un peu compliqué à imaginer, mais en tout état de cause, je suis persuadé que ces événements qui ont été douloureux pour tout le monde ont rassemblé tous les Français, j'allais dire comme un seul homme, si vous me permettez cette expression, et comme vous, comme l'a beaucoup d'élus de l'équipe municipale, nous avons tous défilé le dimanche qui suivait parce que nous voulions exprimer avec force et dans le silence souvent, mais parfois le silence a plus de force et plus d'écho que n'importe quel slogan, nous avons voulu réaffirmer notre attachement à la liberté. Et je considère que, en ce qui me concerne, que la disparition des dessinateurs de Charlie Hebdo et des différents collaborateurs de ce journal qui sont morts, ainsi que les policiers qui les protégeaient, est une immense perte pour notre pays, pour notre démocratie, pour la République. Et de ce point de vue, je pense que on ne peut que se réjouir de voir que finalement le résultat si vous me permettez ce raccourci, de ces actes barbares a été finalement de permettre à Charlie Hebdo d'avoir plus de lecteurs qu'il n'aurait jamais ambitionné d'en avoir. Donc quelque part, c'est un retour de monnaie, si je puis dire, bien senti de la part des Français qui ont voulu, et même ceux qui n'avaient jamais acheté Charlie Hebdo ont été l'acheter pour dire voilà, je ne suis pas lecteur de Charlie Hebdo, c'est pas ma tasse de thé, mais je l'achète parce qu'il symbolise la liberté dans notre pays. Et croyez bien que sur ce point, j'ai été aussi affecté que vous. Vous avez ensuite considéré que notre politique de réussite éducative ne concernait pas tous les enfants du territoire. Si. Aujourd'hui, on peut intervenir sur tous les cas signalés par toutes les écoles des Pyrénées, quel que soit leur quartier. À l'origine, la politique de réussite éducative était restreinte sur les zones d'éducation prioritaire. Elle a été très vite élargie. Ne serait-ce que parce que, dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain des quartiers de Bernon, certaines personnes qui habitaient le quartier de Bernon ont déménagé dans d'autres quartiers. Ça aurait été absurde de leur dire « Vous déménagez du quartier, donc vos enfants n'ont plus de difficultés, donc on coupe les financements ». Donc les financements sont en augmentation et on fera en sorte de maintenir la politique de réussite éducative parce que l'un des engagements essentiels que nous devons avoir, même si ce n'est pas notre responsabilité directe, c'est d'offrir des chances de succès à tous les enfants qui entrent dans l'école de la République, qu'elle soit d'ailleurs l'école de la République au sens laïque ou qu'elle soit l'école privée pour ceux qui font le choix. On ne peut souhaiter que la réussite scolaire des enfants. Et de ce point de vue, je pense que l'action que mène la ville d'Épernay aux côtés de l'État ou aux côtés des OGEC est tout à fait performante. Et j'en veux pour preuve les remerciements les propos que tiennent les responsables de l'éducation nationale, du maire général à l'égard de la ville, ou les responsables de l'enseignement privé. Vous nous avez interpellé avec cette question, quelle société voulons-nous ? On veut une société généreuse qui permette à la fois la création de richesses, parce que la création de richesses et sa redistribution sont nécessaires pour un pays comme le nôtre. Et on veut également faire en sorte de maintenir un lien social, parce que une société qui assisterait au triomphe de l'individualisme sans se soucier du sort des plus âgés, des plus jeunes, des plus fragiles, des plus marginalisés, ne serait pas une société viable. Et de ce point de vue, même si un certain nombre de différences fondamentales nous divisent ou nous séparent, Madame Perrin, je ne suis pas persuadé d'être aussi éloigné que ça de certaines des thèses que développe votre voisin de gauche, Jean-Paul Angers, sur Internet ou dans ses écrits. Et je crois que réciproquement, il a eu l'occasion de me dire à certaines reprises que sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de valeurs républicaines, il nous arrivait, et fort heureusement, de partager un certain nombre de conceptions communes de l'humanisme, de la place de l'homme dans notre société, de l'économie de marché, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a que l'économie de marché qui fonctionne jusqu'à preuve du contraire, et que cette économie de marché doit servir à un projet social fraternel et ambitieux, et que, de ce point de vue, alors on peut estimer qu'on en fait trop, qu'on n'en fait pas assez, mais je ne pense pas qu'on puisse, de ce point de vue, se jeter à la face des accusations concernant notre sens de la République et notre sens de notre conception de l'humanisme. Vous nous accusez enfin de casser le service public, je reprends vos expressions. Je dois rappeler quand même que la MJC, la Cigale musclée ou le MER sont passés par une phase de dépôt de bilan avant que la ville n'ait à reprendre ou à soutenir ses activités. On n'est pour rien dans le dépôt de bilan de ses activités. La MJC, c'est déjà bien ancien maintenant. La Cigale musclée, le club de prévention, a déposé le bilan de mémoire en 99 ou en 2000, tout début d'année 2000. Il a été restructuré depuis et il ne s'est jamais aussi bien porté que ces dernières années. Et le club de prévention a toujours pu compter sur le soutien de la ville. Et je ne vois pas en quoi on aurait cassé le service public. Le MER, il a disparu parce que, comme toute une série d'acteurs du tissu associatif, il a été porté à l'origine par des acteurs qui avaient une véritable foi dans leur engagement associatif. Et puis, malheureusement, parfois, au fil des transmissions, des successions, les dirigeants suivants n'avaient peut-être pas les mêmes aptitudes, n'avaient peut-être pas le même temps à consacrer à la structure. Et à des Marcel C. ont succédé d'autres personnes qui n'avaient peut-être pas la même implication personnelle.
Non, je parlais du club de prévention, oui. Mais sur d'autres, il y a eu Raymond Descarriers à une époque, et puis d'autres personnes lui ont succédé. Ils n'avaient pas tous la même implication personnelle. En même temps, organiser et gérer une association était beaucoup plus compliqué dans les années 2000 que dans les années précédentes, avec toute une série de contraintes sociales, fiscales qui se sont abattues sur les associations et qui a malheureusement fait disparaître du tissu associatif bon nombre d'associations. Pour autant, nous avons toujours soutenu ce tissu associatif et je n'ai pas souvenir que ni à l'OMS, ni lors des assemblées générales dans le domaine culturel, dans le domaine social, on ait souvent entendu ces associations faire le procès de la ville parce que la ville a toujours été à leur côté. Alors c'est vrai que cette année, puisque nos moyens vont baisser, nous allons devoir partager cet effort avec un certain nombre d'associations. Malheureusement, on ne sait pas faire autrement, ou alors il faut, si on continue de soutenir les besoins croissants des associations, ça veut dire qu'il faut qu'on sabre dans nos politiques ou qu'on augmente les impôts. Je pense que dans le contexte actuel, je l'ai dit tout à l'heure, il ne me paraît pas opportun d'augmenter ces impôts. Et puis enfin, vous nous avez accusé de stigmatiser les pauvres, de stigmatiser les demandeurs d'asile. C'est pas du tout la question. J'ai écrit au préfet parce que aujourd'hui, on accueille plus de demandeurs d'asile ou de refoulés du droit d'asile, c'est le terme exact, que Chalon. Chalon a 45 000 habitants, 47 000 habitants. Épernay a 25 000 habitants. Je trouve normal que chaque commune soit mise à contribution et fasse un effort d'accueil. Mais restons objectifs. Proportionnellement, on en accueille beaucoup plus qu'à Reims et qu'à Chalon à Épernay. Il y a un moment où c'est plus logique, où ça n'est plus juste. Je ne porte pas de jugement sur les demandeurs d'asile eux-mêmes. S'ils sont arrivés en France, pour bon nombre d'entre eux, c'était parce qu'ils étaient en proie à des difficultés économiques ou des difficultés politiques importantes. Ils viennent demander asile en France. Certains d'entre eux obtiennent l'asile, d'autres ne l'obtiennent pas. Mais c'est à l'État de gérer les conséquences de sa politique en la matière. C'est-à-dire que si effectivement les personnes sont considérées par la justice française comme ne méritant pas le droit d'asile en France, la logique c'est que ou l'État régularise et il ne veut pas le faire, et je peux comprendre qu'il ne le fasse pas parce que c'est impossible, ou alors il fait en sorte de reconduire ces personnes dans leur pays d'origine. Mais les laisser en situation de grande précarité sur le territoire français, ça n'est pas leur rendre service, et c'est surtout, et c'est en cela que j'ai saisi le préfet, c'est surtout que ça entraîne des conséquences dommageables pour toutes les personnes qui sont en recherche d'hébergement d'urgence, parce que nos hébergements d'urgence, qui sont importants en nombre à Épernay, sont totalement saturés et engorgés de personnes qui n'ont rien à y faire. Normalement, elles ne sont pas d'Épernay. Elles sont orientées à partir d'autres bassins, d'autres régions en Champagne-Ardenne, parce que c'est plein à Paris et c'est plein en Lorraine. Et donc, c'est maintenant la Champagne-Ardenne qui reçoit toutes ces personnes qui, avant, étaient pour certaines d'entre elles à Metz, à Nancy ou ailleurs, qui ne peuvent plus être hébergées là-bas et qui sont hébergées ici. Je ne jette pas la pierre à ces personnes, mais je considère que l'État ne prend pas ses responsabilités et qu'il se décharge sur les collectivités au point d'engorger tous les processus et tous les dispositifs d'hébergement d'urgence qu'on a mis en place avec un certain nombre d'acteurs locaux que sont la Croix-Rouge, que sont le club de prévention et tous les autres acteurs. Donc, quand je tire le signal d'alarme là-dessus et quand je dis au préfet que c'est à l'État d'assumer les conséquences de sa politique, je pense agir sans stigmatiser quiconque, mais simplement avec le devoir qui est le mien d'alerter l'État sur les désordres qu'entraîne sa propre politique. Alors, je n'ai pas trop compris votre dernière sortie sur les bobos parisiens. Je n'ai absolument pas l'intention de débaucher les bobos parisiens, qu'ils restent là où ils sont. Ils sont sûrement très bien. Moi, je fais en sorte d'offrir aux Sparnassiens une politique, un cadre de vie agréable, de l'emploi à proximité dans la mesure du possible, du lien social à travers l'ensemble des actions qu'on mène, une politique qui, dans le domaine de l'environnement,
n'est pas si mauvaise que ça, loin s'en faut, puisque vous savez comme moi que notre ville est plutôt citée parmi les villes vertueuses en la matière de notre région que parmi les villes qui ignorent la dimension du développement durable. Mais je n'ai pas de stratégie particulière pour attirer ce que vous appelez les bobos parisiens.
Si vous me permettez, Monsieur Maréchal pourrait vous le dire, c'est le cabinet qui étudie pour le SCOT, qui fait des propositions, et c'est une de ses propositions de faire venir les bobos à Épernay.
Oui, mais alors, c'est
j'en ai fait allusion déjà au dernier conseil municipal.
C'est pas la mienne.
Donc c'est pas nous qui avons dit ça, c'est le cabinet d'études.
Alors, Claude, sur ce point. Je pense qu'on n'a pas assisté au même film, parce que c'est pas du tout ce qui a été dit. Je n'ai pas voulu, la dernière fois, te contrer, parce que ça ne présentait pas d'intérêt. La question qu'évoquait Jean-Paul Langer est réel, c'est-à-dire comment on diversifie, comment on fait en sorte qu'effectivement il y ait un certain nombre d'actifs qui profitent de la qualité de vie ici, qui sont à la fois qui créent une économie résidentielle et qui, parce qu'il n'y a pas toute l'activité ici, vont ailleurs. Donc, le déformer de cette façon-là, c'est malhonnêtement. Non, c'est pas du tout comme ça, mais on va pas.
On ferme la parenthèse. Je reviens juste sur les chiffres, Madame Perrin, concernant l'hébergement d'urgence. Nous avons à Épernay, depuis cet hiver, 119 places.
Soit 40 places.
Soit 40 places de plus que l'année dernière, que l'État nous a imposées sans nous demander notre avis et sans savoir si ça pouvait avoir des conséquences sur la ville. Il y en a 92 à Châlons, 119 à Épernay, et il y en a 389 à Reims. Reims est 8 fois plus peuplé qu'Épernay, et Épernay a le tiers du nombre de personnes refoulées du droit d'asile, enfin c'est comme ça qu'on les appelle, les réfugiés du CADA, le tiers de Reims, alors que Reims, Épernay représente le 8e de Reims. Donc, moi, j'estime que ce n'est pas normal, que c'est de nature à avoir des conséquences dommageables à Épernay. Par exemple, on n'est plus une femme battue qu'on accueille d'ordinaire en hébergement d'urgence avec ses enfants. Aujourd'hui, on a du mal à lui trouver un logement parce que les places d'hébergement d'urgence qu'on a développées depuis bon nombre d'années, puisqu'on est arrivé à 79, ne sont plus à même de recevoir les propres habitants du bassin d'Épernay qui sont en grosse difficulté, qui sont en rupture familiale, un jeune qui est foutu dehors de chez lui à 18 ans, on ne peut plus l'accueillir parce que nos logements sont occupés par des personnes qui sont affectées par l'État dans ces logements et qui n'ont rien à faire à Épernay. Simplement, elles sont orientées vers Épernay par les services de l'État sans la moindre concertation avec la commune, ce qui me semble tout à fait anormal. J'en viens aux questions qu'a posées Marc Lefebvre, et c'est vrai que nous avons un potentiel financier supérieur ici, et c'est vrai que ce potentiel financier nous permet aussi d'avoir un niveau d'investissement, alors là je ne sais pas où vous allez chercher vos chiffres, mais globalement plus élevé qu'ailleurs, et un niveau d'endettement aussi légèrement supérieur à ce qui se passe ailleurs, puisque c'est très directement ce potentiel financier qui nous permet. Qui nous permet. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement, Monsieur Lefebvre. J'ai pas le sentiment qu'ici on soit dans une situation telle que vous l'exprimez. Je crois pouvoir dire que le travail qui a été fait depuis 10 ou 12 ans, depuis 2012, pour désendetter la ville, je ne vais pas reprendre les chiffres, la réduction des frais financiers, le travail qui a été fait en matière de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Et l'importance de l'autofinancement, qui était jusqu'à l'année dernière de 5,4 millions par an, démontre, me semble-t-il, que la ville est gérée sainement. Et j'ajouterai un autre élément qui semble le démontrer, c'est quand même la confiance que nous ont renouvelée les Sparnassiens, qui, s'ils étaient persuadés, comme vous, que nous gérons la ville en dépit du bon sens, n'auraient pas été aussi nombreux à nous renouveler notre confiance. Oui, enfin, 25%, à ce moment-là, combien avez-vous fait, votre... Oui. non, mais je parle des Sparnassiens qui ont pris la peine de s'exprimer, puisqu'évidemment, on peut pas, même si on peut regretter que le taux de participation ne soit pas plus nombreux, en tout état de cause, notre légitimité est pleine et entière en la matière. Alors, sur les économies, effectivement, les économies, on les a faites sur fêtes et cérémonies, notamment, on le fait sur d'autres secteurs, et nous avions mis en place les Nuits de l'Avenue de Champagne, qui était une manifestation intéressante, qui montait en puissance.
un moment où il faut faire des sacrifices, nous avons estimé qu'évidemment cette manifestation était, on pouvait s'en passer. Ça pénalise sûrement un petit peu l'activité touristique estivale, mais on trouvera d'autres moyens, et notamment l'inscription au paysage du Champagne, je l'espère, pour rebondir en la matière. Sur les comptes d'hiver, effectivement, il y a des diminutions.
Oui. Un petit bémol. C'est une manifestation qui a été appréciée de nombreuses.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Pas seulement de...
Non, mais. Évidemment. Mais c'était un élément de fierté des Esparnassiens, et j'ai souvent rencontré des gens qui disaient à chaque fois c'est merveilleux, etc. Bon, il faut faire un moment faire des sacrifices, il faut faire des
Monsieur
économies, on en fait.
Le maire,
j'ajoute que
reconnaissez que le produit d'imposition directe, c'est marqué ici, à Épernay est plus important que dans les villes de la strate, de la même strate. Hein, on a 886 de valeur par rapport à 603 dans les autres villes. Il faut le reconnaître. Hein.
Mais attendez, j'ai pas dit le contraire.
Ah bah d'accord.
Mais je dis simplement,
vous faites
je dis simplement
chose
que quand vous dites, je vous
dis, monsieur
Lefebvre, je dis simplement que quand vous dites qu'on investit moins à Épernay qu'ailleurs, vous vous trompez.
Oui.
Trouvez-moi une ville de 25 000 habitants qui a le niveau d'investissement que nous avons et notamment le niveau d'équipement que nous avons. Regardez les équipements dont nous profitons à Épernay. Ils sont d'excellente qualité.
Oui.
Ils sont dans un état tout à fait excellent. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes de 25 000 habitants qui puissent s'enorgueillir d'avoir un niveau d'équipement comme celui-ci.
D'accord.
Attendez,
mais
Monsieur Lefebvre, permettez-moi quand même de poursuivre.
Ratio numéro 4.
Je poursuis avec la
263 euros par habitant.
Je poursuis avec la question
que
qui...
les communes, c'est 360.
Monsieur Lefebvre, je poursuis.
Ah oui, non, mais vous avez...
Je poursuis avec la question qui vous obsède. Qui vous obsède depuis plus d'un an, les indemnités des élus.
Non, ça ne m'obsède pas.
Oui.
Non.
Oui, parce
non,
que ça fait un an que vous nous en parlez.
Non.
Je voulais simplement vous indiquer qu'il n'y a pas d'économie de fait pour cette année, pour la simple et bonne raison qu'on s'est rendu compte, parce qu'on se demandait pourquoi on a regardé les fiches données, les rémunérations versées, elles sont rigoureusement identiques,
oui.
Voire peut-être inférieures à celles du mandat précédent. En fait, dans le budget primitif 2014, avaient été budgétés 11 postes d'adjoints et pas 10. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à la fin de l'année avec un excédent sur cette ligne,
oui.
D'où le fait que cette année, on réajuste les chiffres. Mais je puis vous assurer, et je suis prêt à vous confier mes fiches de paye, si on appelle ça comme
non,
ça,
lorsque...
vous verrez qu'elles n'ont pas augmenté d'un mandat à l'autre.
Simplement
parce
lorsque j'ai dit que vous aviez budgété 11 400 euros de plus en 2014, vous avez dit « c'est pas vrai ».
Non.
C'est vrai. Bon,
non.
Là, vous donnez une explication aujourd'hui.
Monsieur Lefebvre.
Ah non.
Soyez honnête.
Ah, oui.
Ce que vous avez dit, c'était pas qu'on avait budgété un poste de trop. C'était
qu'on
avait augmenté les indemnités des élus, ce qui était faux. Donc, effectivement, le crédit servant à financer les indemnités des élus était en augmentation, mais pour autant, les indemnités n'avaient pas augmenté, puisque elles ont été reconduites dans cette Assemblée.
Non,
simplement, il y avait une erreur
d'application. Moi, je lis le budget, j'avais pas l'explication, vous ne l'avez pas donné à ce moment-là.
Vous avez été quand même très prompt à marquer, y compris, je crois bien, dans le journal municipal, que les élus avaient augmenté leurs indemnités.
Bon. C'est le budget, c'est...
Oui, non, mais c'est pas... sauf que c'est pas vrai, donc vous le savez comme moi.
Non, mais vous n'avez pas été prompt à me répondre
je
aussi,
poursuis.
Parce que c'était dans un conseil municipal il y a plusieurs mois.
Je poursuis. Enfin, j'ai été prompt à vous répondre que les indemnités n'avaient pas augmenté, je l'ai dit à la séance même. Peu importe. Vous nous accusez ensuite d'utiliser à tort l'expression ville solidaire en nous disant vous augmentez les subventions du CCAS, puis vous récupérez la subvention en fin d'année.
C'est comme ça que vous constituez l'autofinancement.
C'est pas vrai. C'est pas vrai.
J'ai fait une bonne gestion.
Mais non.
Je dégage de l'argent.
Simplement, le CCAS a des produits d'exploitation. Il a des recettes quand les gens mettent leurs enfants à la crèche. Il a des recettes quand les résidences sociales, les résidences personnes âgées sont louées et complètes. Et on a connu des moments où nos résidences n'étaient pas complètes. Depuis quelques années, elles le sont, parce qu'on a investi des sommes importantes dedans pour les remettre au goût du jour. Et si aujourd'hui elles sont complètes, on a des recettes plus importantes. Donc il est normal qu'en fin d'année, quand on fait un budget primitif, quand on se rend compte que les recettes sont plus importantes que prévues, ben on les restitue au budget d'origine, qui est le budget général de la ville.
Ça se présente.
Je ne reviens pas sur les associations, j'en ai parlé pour répondre à Mme Perrin, mais là aussi, c'est vrai qu'on va baisser les subventions aux associations. Mais d'abord, il n'y en a jamais aucune qui est rouspète, parce que franchement, ils sont conscients du soutien qu'on leur apporte. Et le principal soutien qu'on leur apporte, ce n'est pas les subventions, c'est les équipements qu'on met à leur disposition. La MVA, la salle Odilcope, l'espace Paul Bert,
les équipements sportifs et culturels. On a quand même une variété d'équipements sportifs et culturels de très grande qualité qui font que c'est le premier atout des associations sparnassiennes. Ce n'est pas le montant de la subvention de la ville, il compte. C'est le fait qu'ils peuvent tous exercer leur activité dans des conditions optimales. Je revoyais il y a encore deux jours ou hier le groupe créé dans la presse qui se félicite des conditions dans lesquelles ils travaillent. Il n'y a pas beaucoup d'associations dans notre département qui jouissent de locaux de cette nature. Donc reconnaissez plutôt que de nous accuser d'avoir une politique qui va à l'encontre du monde associatif.
Vous éclairer sur ce point.
Voilà, qu'on a fait beaucoup et qu'on fait encore beaucoup pour ces associations. Un mot sur le GEC. Alors, l'échange avec M. Angers, je ne m'en souviens pas personnellement, et visiblement, il ne s'en souvient pas non plus.
Vous pouvez rechercher les commentaires.
Bon, mais sachez que le soutien aux OGEC, il est de 34 euros par enfant et par an, et que c'est simplement une multiplication par rapport au nombre d'enfants originaires d'Épernay dans ces OGEC qui fait le montant de la subvention, donc c'est quelque chose d'extrêmement mathématique. Enfin, s'agissant du produit fiscal que vous évoquiez et que vous trouviez en diminution par rapport à l'année dernière, c'est tout simplement parce qu'on a perçu en 2014 un peu moins de cotisations foncières des entreprises, la CFE, que prévu. Et ça, c'est lié à la réforme de la base minimale de la CFE. C'est un peu technique, mais les services se tiennent à votre disposition, qui fait qu'on n'a pas perçu l'ensemble du produit qu'on espérait percevoir. Alors, vos solutions, créer des emplois, tourisme, développement des zones d'activité, on y travaille au quotidien. Là aussi, j'espère qu'on pourra très vite annoncer le déploiement de nouvelles activités sur Pierry-Sud. On y travaille d'arrache-pied avec les services de la communauté de communes. On a des touches intéressantes, des perspectives de développement intéressantes en la matière. Mais là aussi, tant que rien n'est signé, je ne préfère pas donner d'identité particulière ni de révéler de projet, parce que on sait très bien que la concurrence existe en la matière et que si on va un peu vite dans nos effets d'annonce, on risque d'être de subir une forme de désenchantement ensuite. Trois propositions que vous faites. Généraliser la collecte à domicile des encombrants, ça coûte très cher. Donc, pour l'instant, on est en phase d'expérimentation.
Pour les personnes seules et âgées.
Oui, mais ça coûte très, très cher. Et aujourd'hui, la priorité de la communauté de communes, vous le verrez lors du vote du budget, c'est aussi de faire des économies, créer des nouvelles collectes, ça veut dire mettre des nouveaux matériels, mettre de nouveaux agents à disposition, et ce n'est pas d'actualité. Supprimer les manifestations exceptionnelles ou les subventions exceptionnelles, mais maintenir les manifestations exceptionnelles, c'est incompatible. Quand on vote des subventions exceptionnelles, c'est bien.
Dans le ravalement, on a toujours des subventions exceptionnelles.
Ah, je pensais que c'était à propos du monde associatif, parce que quand on vote une subvention exceptionnelle, c'est qu'un événement exceptionnel se déroule, et que soit il ne se déroule pas à Épernay. Enfin, l'aide aux travaux d'économie d'énergie, j'allais dire l'État aujourd'hui soutient déjà les travaux d'énergie. On ne peut pas non plus, comme vous nous le demandez, de financer plus. Le secteur du bâtiment et le travaux publics. On a déjà fait beaucoup à travers nos ravalements de façades. On ne peut pas non plus intervenir de façon croissante dans la matière parce que nos finances sont en réduction importante. Enfin, sur la question du chapitre 24, il y a bien 404 000 euros qui correspondent à la fois à la vente, à la cession du 59 avenue de Champagne, c'est le petit chinois, et en même temps au terrain de Bernon-les-Sources, sur lesquels des constructions sont en cours actuellement.
Le calcul des deux, ça faisait 600 et quelques mille euros, 687 000 euros. Et il y a peut-être autre chose.
Pardon ? C'est peut-être parce qu'on n'a pas. Il y a plusieurs phases sur le chantier de Bernon-les-Sources, donc. En tout cas, c'est ce qui est inscrit au niveau des recettes. Je termine par M. Durançois. Alors, je termine par M. Durançois, qui dénonce de la faiblesse et du laxisme de notre part et des efforts insuffisants. Vous souhaitez une baisse plus importante des subventions aux associations. Je vous laisserai le soin d'aller défendre ce point de vue devant les associations. Elles apprécieront. Je pense que les associations, elles ne sont pas là pour le fun uniquement. Elles sont là parce qu'elles jouent un rôle extrêmement important dans une ville comme la nôtre, dans des villes comme les nôtres. Bon nombre d'entre elles permettent l'accès à la culture, l'accès au sport, y compris aux plus jeunes enfants. Et quand on voit les effectifs des écoles de sport dans le domaine du rugby, du football, du hand, etc., on ne peut que se réjouir que ces associations aient les moyens d'exercer, et en partie avec les financements de la ville, mais que je voudrais saluer le travail des des associations et de leurs dirigeants, qui vont aussi chercher des budgets parfois bien plus importants que ce que leur alloue la ville pour faire en sorte, auprès de sponsors privés. Et de ce point de vue, j'estime que le tissu associatif, il mérite d'être largement aidé.
C'est pour ça que je l'ai précisé, pour certaines. On connaît bien d'accord.
Toutes, j'en connais pas qui soient inutiles. Alors, sauf à ce que vous ayez des conceptions très arrêtées sur qui doit être subventionné, qui ne doit pas l'être, mais un club de prévention qui intervient dans le domaine de l'hébergement d'urgence, un club de prévention qui intervient au contact des publics en voie de marginalisation, il mérite d'exister, et je pense que l'action qu'il déploie mérite d'être largement soutenue, et j'ai pas le sentiment que cette association et d'autres jettent l'argent par les fenêtres. Et puis... Pardon ? Non, mais vous demandez la réduction plus importante. Sauf que qui dit réduction plus importante dit perte d'emploi, dit incapacité de faire face à des actions que j'assimile pour certaines d'entre elles au service public. Le service public qui ne s'exerce pas uniquement par les collectivités ou par l'État, il s'exerce aussi par le tissu associatif qui dans bon nombre de domaines, dans le domaine de la prévention spécialisée, dans le domaine de la politique de la ville notamment, intervient pour le compte des collectivités publiques. Et je pense que trop l'affaiblir, c'est, ça n'est pas se rendre service et c'est s'exposer demain à d'autres déconvenues. Vous dénoncez une augmentation des fournitures. J'ai pas le sentiment qu'elles augmentent en ce qui me concerne. Peut-être que sur un chapitre budgétaire peuvent apparaître parfois des augmentations d'une année sur l'autre. Ça ne signifie pas que les fournitures, en l'occurrence, augmentent. C'est peut-être aussi parce que des corrections ont été importées sur des inscriptions budgétaires ou qu'il y a parfois, quand il s'agit de mutualisation, il peut y avoir des dépenses qui augmentent sur certains comptes, mais des recettes qui augmentent également sur d'autres comptes. Et quand on ne fait pas toujours, et moi ça m'arrive également, le rapprochement entre une dépense qui augmente et une recette qui augmente par ailleurs, on peut avoir le sentiment qu'effectivement les fournitures sont délivrées un peu n'importe comment, ce qui n'est pas le cas, croyez-le bien. Voilà, j'ai répondu, je pense, à toutes les questions. Elles étaient nombreuses. On pourrait évidemment prolonger longtemps ce débat. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Angers.
Bah écoutez, monsieur le maire, vous maniez bien le verbe, mais pour autant, vos arguments, vos propos ne sont pas de nature à me convaincre et à me faire changer de position, notamment sur l'aspect démographique, où vous prétendez que cette situation n'a rien à voir avec le budget. Évidemment, elle n'a rien à voir en tant que telle, sauf que baisse de la démographie, ça veut quand même dire significativement perte de foyers fiscaux sur la ville d'Épernay, et ce, de manière constante depuis un certain nombre d'années. Vous prétendez qu'il n'y a plus matière à mettre un sparnassien nouveau dans cette ville. Quid des plus de 1000 logements qui sont aujourd'hui libres, dont beaucoup, évidemment, sont des 2000 appartements ou 2000 logements libres, qui certes sont beaucoup pour des propriétés privées, qui sont détenues par des propriétaires privés. Mais là, aujourd'hui, ces appartements ne peuvent être mis bien souvent à la disposition du public parce que non conformes, parce que insalubres et... j'en passe. Ça démontre bien une adéquation entre les ambitions des gens et puis la politique qui est menée à Épernay et puis le souci des gens qui souhaiteraient pouvoir venir s'implanter, s'installer, etc. Donc il y a aussi des adéquations qu'il nous faut mettre en place. Vous rejetez l'idée vous me renvoyez à mes chères études avec le transport ferré. Je suis désolé, mais quand on est dans une collectivité, j'ai l'impression qu'ici, on pilote à vue et qu'il n'y a pas effectivement... Et là, en ce sens, je suis un peu d'accord avec les
mais
propos...
Mais quel moyen d'action a-t-on sur le transport ferré?
Je suis en accord avec les propos de Marc Lefebvre en disant que c'est quand même un budget de transition où on pousse un petit peu les pions. Effectivement, on a très peu de moyens d'action dans ce domaine-là, si ce n'est que dès lors où on fait des erreurs, on n'a plus la possibilité de revenir en arrière. Je vais prendre un exemple qui n'est pas un exemple sulféré justement sur le routier. Imaginons qu'il y ait eu une seconde mandature Perrin à la ville d'Épernay. Qu'y aurait-il eu de plus dans cette ville? Eh bien, il y aurait eu un contournement. Le contournement a été établi au-dessus des coteaux ouest d'Épernay. Et aujourd'hui, nous en profiterions tous. Donc, bloquer une...
Monsieur Angers, vous qui êtes un défenseur du patrimoine viticole, vous imaginez une tranchée de 5 km, 6 km, qui vient couper en deux les coteaux ouest d'Épernay? Vous imaginez les conséquences si jamais cette opération avait pu être faite?
Monsieur le maire, l'emprise avait été bloquée bien avant la municipalité Perrin. Elle avait été bloquée déjà par la municipalité Stasi, parce que dès 1970, il y avait eu un couloir sur lequel il était interdit de réaliser des plantations de vignes. Donc là, on refait l'histoire 30 ans après. Mais moi, ce que je veux dire dans mon propos, c'est pas de refaire les choses dans ce domaine-là, mais c'est de se mettre en position où on ne contraint pas l'avenir. Là, vous allez prendre une orientation où vous allez contraindre l'avenir, parce que le jour où la voie ferrée elle sera sautée, elle sera plus là. On en parlera.
Mais monsieur Angers, il ne s'agit pas de faire sauter la voie ferrée. La voie ferrée va rester. Simplement, il y a aujourd'hui toute une série de voies désaffectées dans les ateliers SNCF. On ne va quand même pas les conserver pour le plaisir de les contempler. Il faut bien aménager ce quartier. Si on laisse des voies ferrées partout, on ne peut pas l'aménager, ce quartier. Mais aucune voie SNCF en fonctionnement ne sera supprimée. Simplement, la SNCF nous a identifié un certain nombre de voies dont elle ne se servait plus, et il me semble normal d'en faire autre chose que de la voie ferrée.
De la friche, oui, peut-être. Donc voilà. Donc pour ces raisons et cette absence, je dirais, d'arguments pour moi valables et authentiques, je ne voterai pas le budget. Par contre, je voulais profiter d'avoir à nouveau la parole, puisque... plusieurs propos dans cette assistance sont venus pour réaffirmer la notion de laïcité. Vous avez même évoqué le fait que, de manière symbolique, ce pourrait être rajouté au fronton de nos mairies, en complément du triptyque habituel, liberté, égalité, fraternité. Moi, je me pose quand même la question sur une possibilité que pourrait avoir notre collectivité, notre conseil municipal, suite aux événements tragiques de ce début d'année en matière de laïcité, c'est vraiment de s'engager dans une réelle observation de la laïcité sur notre collectivité, à savoir que la laïcité, je rappelle, c'est respecter la religion ou la pratique de la religion par les autres, mais cette pratique reste dans la sphère privée et nous avons notre espace commun qui est neutralisé pour cela. Moi, je pense que ça serait quand même un engagement républicain d'observer la laïcité dans nos actions quotidiennes en tant qu'élu. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on est en dehors du champ de la laïcité, mais également par rapport à la citoyenneté sparnassienne d'une manière générale, pour éventuellement pallier à certaines dérives qui pourraient se mettre en place. Je pense que ce pourrait être une action. Là, je vous livre ça au travers des propos qu'ont pu tenir les uns et les autres, mais je pense que ça serait une démarche à réfléchir, à consolider, mais par laquelle on pourrait réellement s'inscrire en consistance par rapport aux événements qui ont eu lieu, et puis continuer localement, sous cette forme, une forme d'union nationale que nous avons évoquée par ailleurs.
Je pense qu'effectivement, sur des questions comme celle de la laïcité, et sur la difficulté qu'on peut avoir parfois face à des réactions de parents à maintenir, j'allais dire, ce principe qui nous rassemble... pour une très grande majorité de Français, je ne dirais pas l'unanimité des Français, mais pour une très très grande majorité de Français, c'est compliqué au quotidien pour certains de nos agents. C'est parce que la pression est omniprésente. De ce point de vue, je pense qu'il faut qu'on ait effectivement des positions très fermes en la matière, qu'on ait en même temps une capacité d'écoute et de compréhension. Mais en tout état de cause, j'estime que ma responsabilité, c'est de veiller justement à ce que, dans l'accès aux services publics notamment, on puisse garantir à nos agents, qui sont des agents
du service public, qui sont au service de tous, cette laïcité qui est, j'allais dire, une partie intégrante de notre patrimoine national aujourd'hui et qu'il faut défendre au moment où on le voit partout dans le monde. Effectivement, cette idée de laïcité est combattue, rejetée, parfois violemment, on l'a vu ces derniers jours. C'est une conception française issue de notre histoire dans une large mesure. Elle est partagée par quelques pays, mais reconnaissons que dans bon nombre de pays, et même dans certains pays dits amis, la notion de liberté d'expression, dès qu'il s'agit des cultes, est différente de celle qu'on peut avoir chez nous. J'estime qu'on n'a pas, à la faveur de ces malheureux événements, à revenir sur notre conception de la laïcité. On a probablement un gros travail pédagogique à faire. Il y a un gros travail à faire au niveau scolaire, et même si ça n'est pas notre responsabilité première, on aidera, dans la mesure du possible, évidemment, à ce que les messages arrivent bien à ces destinataires que sont notamment les enfants, parce que je pense que c'est aussi dès les plus jeunes âges qu'il faut familiariser les enfants à des valeurs comme la tolérance, comme la non-discrimination, comme la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, la lutte contre l'antisémitisme, la connaissance sans doute des religions, parce que je pense que on a sans doute eu tort de ne pas enseigner ce que sont les religions, pour aussi démystifier un certain nombre de préjugés qu'on entend, ou de phrases, ou d'idées toutes faites qu'on entend trop régulièrement. Mais je suis tout à fait d'accord pour qu'effectivement, sans créer un comité de vigilance forcément, mais qu'en tout état de cause, on puisse en discuter très librement, y compris dans notre enceinte, parce que, encore une fois, on est dans une enceinte républicaine ici, et les exigences de la laïcité doivent pouvoir être évoquées dans cette assemblée. Un dernier mot, Madame Perrin.
Ouais, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, à Chalon, ils sont en train de mettre en place dans les différents quartiers et interquartiers des lieux de rencontre, justement, pour en parler, en laissant et aux habitants, et aux jeunes, et aux enfants, et aux enseignants le lieu du débat.
Non, non, mais rien ne nous empêche d'organiser dans les semaines et les mois qui viennent, à l'occasion d'un certain nombre de célébrations, d'événements réguliers dans les quartiers, dans la ville, d'organiser des débats autour de ces questions, parce que reconnaissons que notre société est ressortie à la fois renforcée par l'élan de dimanche dernier, mais en même temps fragilisée par les constats qui ont été faits, notamment dans le milieu scolaire ou chez les plus jeunes, qui reprennent à leur compte ce qu'ils entendent malheureusement souvent dans le cadre familial. Et pour moi, ce n'est pas l'éducation nationale qui est responsable. L'éducation nationale est malheureusement, dans bon nombre de domaines, chargée de compenser les défaillances éducatives, y compris familiales. Et là aussi, l'éducation nationale va se retrouver en première ligne, alors que le problème, il va venir souvent d'éducation familiale. Et quand on entend des gamins de 10 ans refuser de faire l'hommage que représenté par la minute de silence, et surtout énoncer des propos haineux à l'égard des dessinateurs, c'est pas les gamins qui les ont inventés, ces propos, ils les ont entendus dans leur environnement proche. Et il nous appartient peut-être d'essayer de corriger le tir, d'essayer de faire en sorte que on leur apprenne que dans une démocratie, dans un état de droit, dans une république, on doit respecter les uns et les autres, et que si effectivement on estime que son Dieu est blasphémé, il y a des réponses juridiques qui existent, mais la réponse qui est celle des armes, elle n'est pas acceptable, elle ne sera jamais acceptable. Bon, on ne va pas évidemment...
Il n'y a pas que des jeunes qui ont considéré qu'ils avaient commis blasphème au niveau de Mahomet, etc., qu'on faisait la minute de silence. Il y a d'autres extrêmes qui sont aussi...
Montré
ce jour-là. Oui. Et par rapport aux jeunes, les réseaux sociaux font aussi beaucoup sur les opinions qu'ils peuvent avoir. Il n'y a pas que les parents, forcément, qui sont à l'initiative de ce que les jeunes peuvent, à un moment donné, avoir comme position. Mais je voulais aussi revenir sur ma proposition de tout à l'heure. Vous m'avez dit, je ne vais pas défiler avec les communistes. Et puisqu'on parle de laïcité, etc., je voudrais juste, à un moment donné, parce que là, c'est quand même quelque chose qui engage l'avenir de notre société. C'est-à-dire que le manque de moyens des collectivités territoriales, il va avoir des lourdes conséquences économiques et sur les services qu'on va pouvoir rendre au public et l'égalité qu'on peut avoir sur les territoires. Et je vais faire un petit peu de poésie, ça nous changera. Aragon disait dans La Rose del Caseda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, peu importe le temps, etc. etc. Et qu'à la sortie de la guerre, au niveau du Conseil national de la résistance, il n'y avait pas que des communistes, il y avait aussi des gaullistes, il y avait aussi toutes sortes de gens qui y étaient, pas forcément l'extrême droite, mais les autres composantes de notre République y étaient. Et à ce titre-là, ouais, je pense que là, par rapport aux démarches qu'on a à faire, par rapport à ce que l'État est en train de mettre en place, on a une démarche collective à avoir.
Non, mais je comprends la démarche des élus communistes et je la partage parce que dénoncer l'attitude de l'État, et encore une fois, l'État, ce n'est pas que ce gouvernement, c'est malheureusement une situation institutionnelle ancienne, c'est tout à fait louable. Chaque parti politique le fait. Moi, j'inscris mon action dans le cadre de l'AMF parce que je trouve important que toutes les sensibilités politiques, les unes à côté des autres, défilent ensemble ou protestent ensemble contre la position de l'État. Les manifestations de dimanche, l'autre jour, voyaient des gens de toutes sensibilités les unes à côté des autres. À l'AMF, c'est aussi le cas. Et je puis assurer que, pour avoir été au congrès du mois de novembre, les plus virulents contre la politique du gouvernement ou de l'État en matière de finances publiques, c'était pas forcément les élus les plus à droite. C'était souvent les plus à gauche qui étaient vent debout, estimant que la décentralisation était mise en péril par les propres héritiers du courant décentralisateur. Donc il y a une incompréhension de la matière. Je garde un espoir, c'est que les choses changent, parce que je pense que quand les premières remontées des collectivités locales vont arriver au niveau de l'État et quand on va voir le sinistre potentiel que ça peut provoquer, il va y avoir, sur le plan économique, il va y avoir une réaction de l'État qui va se rendre compte qu'effectivement, par sa politique, il ne nous laisse pas d'autres... Il ne nous laisse pas d'autres solutions, d'autres variables d'ajustement que de baisser nos investissements dans les années qui viennent, alors que notre pays a besoin de l'investissement public et qu'il est un des moteurs de la croissance. Donc je pense que là-dessus, il y aura un moment ou un autre un correctif. J'espère qu'il sera suffisamment important pour nous préserver des marges de manœuvre. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour nous préserver à nous des marges de manœuvre, mais ces marges de manœuvre, ce sont les habitants des Pernets, ce sont les habitants de toutes les communes de France qui en profitent, parce que je n'ai pas le sentiment qu'on multiplie les équipements superflus et qu'en tout état de cause, ce qu'on fait est sans lien avec les besoins et les attentes de la population. Bien, je vous propose maintenant de passer au vote de ce budget, en l'occurrence des délibérations 2B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, puisque ce sont les budgets principaux et budgets annexes. Quels sont les votes contre? Donc 3, 6, 7. Abstention. Donc le budget est adopté et nous passons au rapport. Deux C. Deux C, c'est encore moi. Mais il faut que je retrouve la délib. Chers collègues, comme chaque année, je vous invite à adopter la délibération suivante qui nous permet de procéder aux appels mensuels relatifs à la fourniture de chauffage pour les clients raccordés au réseau de chauffage urbain. À noter qu'à l'issue de la facturation annuelle, soit au premier trimestre de l'année suivante, une régularisation est effectuée. Et vous noterez en la matière une légère diminution de l'appel mensuel au titre du R1 compte tenu du prix du gaz. J'espère qu'évidemment, cette baisse va s'accentuer. Mais après quelques années d'augmentation qu'on a regretté à l'époque, on peut se féliciter que, de ce point de vue, le budget familial soit moins affecté par les coûts de chauffage. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'opposition. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant, le rapport 2D, Christine Mazzi.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter les attributions de subventions aux associations suivant les différentes annexes qui vous ont été adressées.
Y a-t-il des questions ? Bon, le sujet a été largement évoqué dans le cadre de la discussion budgétaire. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ah oui, opposition 3. Abstention.
Ah aussi.
Tout le monde ? Abstention ? Donc 7. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec la modification du tableau des effectifs ville des emplois permanents. Christine Mazzi, toujours.
Merci. Je vous propose de créer 4 postes répartis de la façon suivante. Donc un poste pour renforcer l'équipe du musée dans le cadre de son projet de rénovation. 2 postes pour augmenter le temps de travail de 2 agents et faire face à un départ en retraite. Et 1 poste pour remplacer un départ en retraite à la direction des finances. Tous les détails de ces postes sont indiqués dans le rapport en votre possession.
Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition. Le rapport est adopté. Nous poursuivons rapport 2F. Joachim Verdier.
Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, des travaux de voirie, d'assainissement, d'éclairage, d'eau potable et d'enfouissement des réseaux sont nécessaires sur l'allée d'Artois. Ces travaux auront lieu sur l'exercice 2015. Afin d'assurer une meilleure cohérence des travaux, la ville d'Épernay et la communauté de communes ont souhaité conclure une convention de maîtrise d'ouvrage unique relative au renouvellement du réseau d'assainissement et désignant la communauté de communes comme seul maître d'ouvrage. La ville remboursera à la communauté de communes le montant des travaux lui revenant sur la base des sommes acquittées par la communauté dans le cadre du marché attribué au titre de ces travaux. Je vous propose donc d'adopter la convention qui en précise les modalités.
Et on peut se féliciter qu'évidemment les habitants de l'allée d'Artois bénéficient enfin de ces travaux. Ça fait 8 ou 10 ans qu'on se bagarre pour essayer d'obtenir que cette voirie qui n'était pas dans le domaine public municipal puisse bénéficier d'une rénovation complète. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3A, Christian Demongin.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, vous connaissez l'association Télécentre Bernon avec comme mission celles qui sont indiquées en début du document. La convention qui lie l'association à la ville étant venue à échéance, il convient de la renouveler. Et donc, je vous propose d'adopter les termes de la convention telle qu'elle vous a été remise.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas d'opposition ? Pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3B. Christian Demongin.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le traiter une première fois et comme nous le retrouverons probablement dans quelques mois, il s'agit de voter une subvention pour qui entre dans le cadre de la convention entre Épernay Spectacle et le Salmanazar. Ceci concerne cette fois un spectacle de Alexandra Lamy qui sera joué en février 2015.
Merci. Des questions ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Rapport 4 à Anne-Marie Legras.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, dans un souci de réactivité, nous vous proposons de modifier les conditions d'octroi des aides municipales au titre du ravalement de façade et au titre de l'intérêt architectural en autorisant le commencement des travaux avant l'obtention de l'arrêté de subvention, mais uniquement pour les situations le justifiant et préalablement accordées par le service urbanisme et architecture de la ville d'Épernay et, le cas échéant, par l'architecte des bâtiments de France. Donc, il s'agit d'apporter un peu plus de souplesse. Nous avons constaté quelquefois que des entreprises ont des contraintes de calendrier et pour éviter de pénaliser, donc a priori les gens devront avoir eu l'accord de la commission, mais exceptionnellement pour favoriser la réalisation de certains travaux, donc et en le justifiant, ils pourront commencer avant l'accord.
Merci. Pas de questions. Oui.
Oui, pour ma part, j'ai évoqué en commission que j'étais contre. D'une part, on décisit le conseil municipal et le pouvoir du maire, puisque ça va être un administratif qui va prendre la décision. D'autre part, j'ai évoqué d'autres choses. Ça peut poser problème Hein, et je pense que la mairie est assez réactive et quand il y a un devis, qu'elle peut donner assez rapidement son autorisation.
Non, si vous voulez, nous avons décidé cela, c'est parce qu'on s'est rendu compte que quelquefois, c'est pour favoriser, en fait, comme vous le savez, dans les mois qui vont arriver, dans les entreprises du bâtiment vont certainement avoir moins de commandes et c'est aussi pour favoriser... favoriser la réalisation de certains travaux pour
ça
apporter
reste
un petit peu de souplesse.
Croyez bien qu'on n'a pas l'intention de baisser la garde en la matière et de laisser faire n'importe quoi. Notre service est très vigilant en matière, mais c'est vrai qu'à certains moments, il est important de pouvoir donner un feu vert. Non, on vérifie après.
On vérifie toujours.
On vérifie sur facture payée, toujours. Derrière, il y a une vérification sur les factures définitives. Parce que si effectivement une facture est moins élevée qu'un devis, on récupère une part de la subvention. Sur ce point, avis contraire, abstention, 4 abstentions. Avis contraire, 4 contre. Alors, 3 contre, 1 abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Anne-Marie Legras, toujours.
Chers collègues, nous vous proposons de déplafonner l'aide municipale accordée à l'immeuble 101 rue de l'Hôpital Auban-Mouette et de majorer l'aide municipale accordée à l'immeuble 27 avenue du Maréchal Foch compte tenu des travaux entrepris. Donc tout est détaillé dans le rapport.
Des questions ? Avis contraire ? Abstention ? Contre ? 3. Contre ? 3. Oui, c'est ça. Le rapport est adopté.
Une erreur.
Il nous reste le dernier rapport du Conseil. Il concerne les décisions prises par le maire par délégation du Conseil municipal. Avez-vous des explications, mes chers collègues, à demander sur les décisions énumérées dans le rapport qui vous a été adressé ? Pas de questions ?
Si.
Oui, allez-y.
Dans le 7, donc vous dites que la Régis Parnassienne donc, a le contrat entre 250 000 et minimum et 450 000 maximum.
Oui.
Donc, sur cela, la commission d'appel d'offres a, semble-t-il, entériné d'autres chiffres. Hein. Là, j'ai le résultat de la commission d'appel d'offres. On voit entre 300 000 et 540 000. C'est bien la même chose. Le document de l'appel d'offres, monsieur le maire.
Entre 300 000 et... Vos chiffres, c'est quoi ?
Et 300 000 et 540 000, on nous a donné ce document au CAG.
Alors, j'avoue que je ne sais pas pourquoi il y aurait une différence.
Et je sais que...
Il parle de la régie.
Jadis, on nous a expliqué que c'était...
Oui, mais apparemment...
Oui, mais ici, hein...
Ce qui est important, c'est le
j'ai toujours des documents à l'appui. Non, mais c'est pareil ici, mais les chiffres sont différents. Hein. Vous voulez le document ?
Oui, non, mais...
Attends.
Faites passer le...
Non, mais... Passer le document.
Je vous donnerai l'explication, mais il y a sûrement une explication technique. Il y a d'un côté un mini-maxi, de l'autre côté, il y a... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous donnerai la réponse.
Dans les deux, il y a des...
Pas d'autres questions ?
Une question,
oui.
En général, vous ne répondrez pas aujourd'hui, mais... Les
Allez-y.
Habits de lumière, à combien ça revient ? Ça a déjà été posé à plusieurs reprises, on n'a jamais eu de chiffre exact.
Le
financement des habits de lumière, à combien ça revient globalement ?
Alors, pendant...
Avec l'investissement en matériel, l'investissement en heures, etc. Vous calculez toujours ça.
Ouais. Ça, je ne peux pas vous le, je peux
non,
pas vous le donner
non.
ce soir, mais je sais que les prestations artistiques tournent entre 180 000 et 220 000 euros. Toute intervention extérieure confondue. Pour le reste, je ne peux pas vous donner le chiffre ce soir parce que je ne l'ai pas en tête.
Non,
je vous dirai le nombre d'heures.
Ouais,
parce que la difficulté, si vous voulez, c'est qu'un certain nombre de... Quand on compte les heures, c'est qu'il y a parfois du travail qui est fait 6 mois à l'avance. Quoi. Et qu'il faudrait globaliser les heures, pas seulement les heures des 3 jours en question, mais du travail préparatoire qui est fait par certains agents bien en amont.
D'accord, merci.
Pas d'autres questions ? Bien, mais écoutez, l'ordre du jour est épuisé.
Aussi.
Pardon ? Oui, il faut simplement signer les documents qui circulent. Si ? Tout le monde doit signer, c'est tous les présents. C'est tous les présents. Tous les présents. Oui, oui, on ne vous demande pas de signer, oui. On ne vous demande pas un chèque en blanc.
Parce que c'est bientôt, c'est là. Il y en a qui viennent souvent d'avoir leur courrier, peut-être. Ça.